notre dernière conférence. Et après, vous savez qu'on a un petit goûter, donc vous ne partez pas vite. Hein. Voilà. Alors, nous allons parler de quelque chose d'un peu particulier et qui appelle à l'éthique, finalement. Nous allons parler de l'actualité des liens de filiation et des besoins de l'enfant. Pour parler de cela, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Pierre Lévy-Soussan avec nous, qui est fondateur du pôle expertise famille-enfant, qui travaille avec donc principalement des juges pour enfants, des juges aux affaires familiales. Il est aussi évidemment pédopsychiatre, j'oubliais de dire l'essentiel, directeur de la consultation filiation au CMP de Paris dans le 14e. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que Daniel Marchelli vous en a parlé, et nous avons une société dans laquelle les liens familiaux évoluent beaucoup, comme il le disait, entre le père et la mère peuvent se dissoudre facilement, ce qui donne à l'enfant, puisque c'est un lien qui ne bouge pas, on est toujours le fils de quelqu'un. Donc les enfants prennent un certain pouvoir et il y a d'autres configurations aussi familiales qui existent. Il y a aussi biologiquement des progrès technologiques qui rendent possible énormément de choses. Quelquefois, nous ne sommes pas d'ailleurs toujours au courant de tout ce qui est voté au Parlement. Hein, et l'une des dernières lois introduisait aussi des tas de possibilités de manipulation génétique autour de la reproduction de l'homme, sans qu'on soit vraiment bien tous au courant de ce que la technologie médicale est en train de faire. Il est donc important aussi de pouvoir avoir un discours éthique et penser finalement les droits de l'enfant, dans quelles conditions fait-on naître un enfant, quelles sont les personnes qui le font naître, a-t-on le droit encore aujourd'hui de se questionner sur certaines évolutions. Nous avons été très choqués par le fait que quelqu'un comme Sylvia Nagasinski, qui a posé ces questions, qui globalement disait l'enfant n'est pas un objet et si tout le monde a le droit d'avoir un téléviseur, est-ce que l'enfant est un objet qui devrait être traité de la même façon? Est-ce qu'on a le droit de poser ces questions sans recevoir une censure, celle qu'elle a reçue d'ailleurs, puisqu'elle a été interdite d'enseigner dans une université après avoir écrit justement ces questions qui interpellent quand même sur ce que notre société est en train de faire avec les enfants. Donc c'est pour ça que nous sommes très heureux de pouvoir peut-être parler de cela en voyant la complexité de la situation et en espérant qu'on est encore dans une société où certaines personnes peuvent se poser des questions et où on a le droit de se poser certaines questions sur ce que l'on a le droit de faire avec un enfant. Merci beaucoup, Monsieur Lévy-Soussan, de nous aiguiller dans ce cheminement.
Merci beaucoup de m'avoir invité cette année pour parler de ce sujet complexe par rapport à la filiation, par rapport aux filiations où la science intervient. Comment je m'y suis intéressé ? Je m'y suis intéressé à cause du professeur Soulet. Le professeur Soulet, il y a plus de 20 ans, m'a demandé de diriger une consultation qui, à l'époque, était dans le 15e, maintenant elle est dans le 14e. Il m'a demandé donc dans les années, au siècle dernier, en 1999, il m'a demandé d'orienter cette consultation vers des problèmes d'adoption. Il m'a demandé si je m'y connaissais dans l'adoption. J'ai répondu oui, bien sûr. Vous savez, à chaque fois que vous voulez un poste, pas question de dire non. Donc bien. Moi, j'y connaissais strictement rien et je me suis vite empressé de lire toute la littérature sur le sujet de l'adoption. Il faut savoir qu'il n'y avait quasiment rien. Il y a 3 articles de Winnicott. Il y avait l'article dans le LSD, celui qu'on appelle le LSD, le Lebovici sous les Diatkin. Et puis, il n'y avait pas grand-chose sur l'adoption. Ça n'intéressait pas les pédopsychiatres. Ça n'intéressait personne, sauf M. Soulet qui avait travaillé depuis 20 ans dessus, étant donné qu'il avait travaillé sur l'abandon. à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, et puis sur l'adoption, quoi. C'était l'un des grands spécialistes de l'adoption, et puis il avait perçu le fait qu'on allait s'y intéresser dans les 20 prochaines années. Donc j'ai eu, si je puis dire, grâce à lui et ma consultation, 20 ans d'avance pour travailler toutes ces histoires de filiation. Et comme au début je n'y connaissais rien, j'avais tous les préjugés de tout le monde sur l'adoption, c'est-à-dire l'importance et d'aimer un enfant, ce genre de préjugés qu'on peut avoir. Ce sont les enfants adoptés qui ont des problèmes parfois, mais les parents adoptants vont très très bien. Enfin bref, et lorsqu'on a commencé à s'intéresser là-dessus, je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'abord, j'ai eu le privilège, parce que comme parallèlement à ça, on faisait des expertises à la demande des JAF ou des JE dans les cas graves de maltraitance. Donc dès le début, en fait, il y a plusieurs fils qui se sont noués. À la fois, le fil de travailler la violence contre les enfants. Donc ça, je ne cesse de travailler dessus. Donc, de travailler sur qu'est-ce que c'est que la disparentalité. Donc, ça fait 20 ans que je travaille sur la disparentalité. Et donc, 20 ans que je travaille sur le fait que se construire dans des conditions un peu complexes où il n'y a pas de lien biologique à l'enfant, eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça, ça a été donc, à tel point que j'ai travaillé sur les... Donc, j'ai écrit un livre sur les échecs de l'adoption qui s'appelle « Les destins de l'adoption ». Alors, ce n'est pas sur les échecs, à proprement dit, c'est sur tous les facteurs de risque. Donc, je parlerai beaucoup de facteurs de risque. C'est pour ça que lorsqu'on m'a proposé de parler de ces filiations un peu particulières, biologiques, etc., pour moi, effectivement, ça rentre dans les facteurs de risque d'une filiation parce que donc j'ai travaillé sur un sujet tabou qui sont les échecs d'adoption. Alors, les échecs d'adoption, est-ce que vous avez vu beaucoup d'enquêtes sur les échecs d'adoption ? La réponse est non. Pour la bonne raison, c'est que c'est quasiment impossible d'avoir des chiffres. Il n'y a que grâce au fait que j'ai travaillé avec une immense partie des conseils généraux qui ont travaillé sur ce sujet difficile. Et grâce à ces conseils généraux et aux équipes d'adoption, j'ai pu travailler sur les échecs. Parce que ce sont des équipes qui ont accepté de se remettre en cause pour prévenir, pour voir comment on pouvait prévenir ces échecs. Et moi, c'est l'une des grandes conclusions de mon livre, c'est que tous ces échecs filiatifs auraient pu être prévenus si on avait respecté les facteurs de risque, si on avait évité de donner un agrément à des personnes qui étaient incapables de devenir parents, parce que l'une des grandes conclusions de cela, et qui est aussi une thématique pour aujourd'hui, c'est que la filiation, c'est une construction, et que parfois, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est très clair. Et l'autre grande conclusion, mais je vais avoir le temps de développer ça, y compris dans la PMA, donc dans la procréation médicale assistée, enfin qu'on doit appeler l'aide médicale à la procréation, je me suis rendu compte que bien sûr c'était plus complexe, pour la bonne raison, c'est que le tiers social intervient. Et le tiers social intervient d'une façon évidente dans l'adoption, mais les gens n'en ont pas conscience, c'est-à-dire ils pensent que l'enfant, voilà, il n'y a pas tellement de différence entre avoir un enfant sous la couette, comme ils disent dans les milieux adoptifs, d'un enfant venu par le tiers social. Or, c'est extrêmement différent. Et on va voir quand cet enfant vient par le tiers médical, à quel point ça rajoute de la complexité. Mais donc, je me suis rendu compte que cette construction pouvait ne pas se faire. Et ça, ça a été une vraie découverte, c'est-à-dire aussi bien chez l'enfant qui pouvait considérer ses parents comme pas ses parents, aussi bien chez les parents qui pouvaient considérer leur enfant comme pas leur enfant. Et ça, ça a été, et en gros, la grosse découverte par rapport à tous les travaux qui ont été faits sur l'adoption depuis Bowlby et Spitz et compagnie et Winnicott, c'est que les facteurs de risque, il y en avait certes du côté de l'enfant, avec des enfants qui ont les séquelles des traumatismes relationnels précoces. Enfin bon, je pense que vous avez eu des cours sur les TRP, mais je pourrais y revenir s'il y a des questions. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait des risques parentaux. Ce qui m'a valu... alors effectivement, hein, comme je le disais, je ne suis absolument pas politiquement correct. C'est pour ça que pour moi, l'adoption, un, tous les parents ne peuvent pas adopter, deux, tous les enfants ne sont pas adoptables. Donc avec ça, je me suis fait beaucoup inviter un peu partout. Et bien sûr, hein, y a des limites à l'adoption des enfants, c'est-à-dire c'est pour ça que une bonne chose dans cette loi de 2016, parce que je peux la descendre énormément, cette loi de 2016 sur la protection de l'enfance, mais la bonne chose, c'est le bilan d'adoptabilité. Nous, ça faisait 20 ans qu'on faisait des bilans d'adoptabilité pour les enfants. Pourquoi ? Parce que tous les enfants ne sont pas adoptables. Lorsqu'on fait cet article 381 trop tard, et que l'enfant a 12-13 ans, bah, parfois il ne sera plus adoptable. Il aurait fallu faire ça plus tôt. Et si ça n'a pas été fait plus tôt, c'est à cause de ce que Maurice Berger appelle l'idéalisation du lien biologique, qui fait que bah ouais, ce sont tes parents, bah voilà, tu vas les mériter toute ta vie. Donc c'est vrai, cette pensée de la justice qui a du mal à rompre un lien biologique, c'est l'une des plus grandes causes de maltraitance pour moi des enfants, parce que ça les empêche d'avoir un autre destin que celui d'être effectivement maltraité par sa famille. Donc effectivement, tous les enfants ne sont pas adoptables. Parfois, il y a de telles séquelles de traumatisme, de TRP, de traumatisme relationnel précoce. Je pique ce terme-là à Maurice Berger et Emmanuel Bonneville-Baruchel, dont je cite au passage le livre, qui a un titre extrêmement compliqué à retenir, « Les traumatismes relationnels précoces ». Voilà, qui est vraiment extrêmement bien fait. Elle a eu le privilège de travailler pendant près de 15 ans avec Maurice. Voilà. Et puis j'ai pu travailler avec Emmanuel Bonneville-Baruchel parce qu'on a pu faire des expertises ensemble au sein du PEF, c'est-à-dire le pôle expertise famille-enfant. Vous avez 20 ans que je continue donc à analyser ce lien, c'est-à-dire pourquoi parfois des parents n'arrivent pas. Et puis parfois, ce n'est pas réversible. C'est-à-dire la loi 2007, oui, il faut soutenir la parentalité, etc. Bah oui, mais parfois, comme dirait mon père, vous aurez beau monter au ciel et redescendre, vous n'y pourrez rien. Il y a des parents qui ne pourront pas, parfois par simple incapacité, parfois par une structure psychique plus complexe, de perversion, etc., qui fait qu'ils ne pourront pas se transformer en père ou en mère. Donc ce terme de transformation, pour moi, ça a été un terme qui m'est tout de suite venu à l'esprit. J'ai toute une bibliographie, bien sûr, sur la filiation, dont je parle, bien sûr, dans mon bouquin sur l'adoption, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé les écrits de Guillotat. Guillotat était un psychiatre lyonnais qui a vraiment travaillé. C'est lui qui m'a inspiré l'histoire des trois piliers dont je parlerai. Et c'est vraiment un psychiatre remarquable. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec les travaux de Pierre Legendre. Pierre Legendre fait partie des immenses juristes qui articulent le psychique au juridique. Donc, pour moi, on ne peut pas faire d'expertise si on n'est pas capable d'articuler le psychique au juridique. C'est pour ça que, moi, l'importance des lois est considérable. Et l'importance des décisions de justice est considérable. Et l'importance de la sanction est considérable. Pour moi, les sanctions ont quelque chose de structurant auprès de l'enfant. Bon, vous n'avez pas eu Maurice Berger dans ce DU à vous faire une conférence, mais lisez son dernier livre sur la violence gratuite en France. Il est sorti peu de temps avant le massacre de ce chauffeur de bus. Voilà, les écrits. Il est aussi politiquement correct que moi. Et c'est remarquable. Et là, actuellement, il travaille dans un centre éducatif pénitentiaire. Je vous garantis que les leçons qu'il en tire sont remarquables, y compris, effectivement, sur la valeur structurante. Et les adolescents qui ne rencontrent aucune sanction, c'est comme si, effectivement, on donnait un satisfecit à la construction au versant narcissique de la personnalité. Or, pour moi, je mets en conflit, bien sûr, le versant narcissique de la personnalité dont on a besoin, certes. Heureusement qu'on doit avoir un peu d'estime de soi. Mais ces éléments narcissiques doivent rentrer en complémentarité, parfois en conflictualité, avec les éléments oedipiens. Et on va voir comment cette construction oedipienne versus construction narcissique sont sans cesse, justement, en conflit et en complémentarité. Donc tout cela pour dire que le fait d'avoir été sensible très très tôt aux constructions adoptives où il n'y avait pas de lien biologique avec l'enfant. D'abord, on peut se poser comme première question, c'est-à-dire comment on peut devenir père ou mère d'un enfant avec qui on n'a pas de lien biologique. Parce que ce n'est pas évident. Vous savez que si vous faites un micro-trottoir dans la population et que vous leur demandez mais pourquoi c'est fait l'interdit de l'inceste, 99% des gens vont vous répondre, c'est pour éviter les enfants à trois doigts, les malformations, la consanguinité, etc. C'est-à-dire, personne n'aura le réflexe, ah oui, la loi oedipienne, vous voulez parler du registre symbolique. D'accord, personne n'aura ce réflexe-là. Et pourquoi ? Parce que les gens pensent la famille en termes biologiques. C'est une évidence. Les familles adoptantes se font généralement mal voir, parce que qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont pas de lien biologique avec l'enfant. Les remarques que se prennent les parents adoptifs, je les connais toutes, vu que ça fait 20 ans que je les rencontre, aussi bien en conférence qu'en consultation, elles ont droit à tout. C'est qui la vraie mère ? D'accord ? Ou bien vous êtes allé à l'étranger ? Ah ouais, c'est bien. Et alors donc, vous l'avez payé combien, votre enfant ? Et ça, c'est depuis la boulangerie jusqu'à l'éducation nationale. C'était, sans parler de la cour de récréation avec les enfants. Ah bah ouais, mais c'est pas tes parents, ça se voit. Hein? C'est-à-dire que le réflexe bio, hein, le réflexe écolo, bio, 100% bio, c'est terrible pour l'adoption. Parce que l'adoption, ça prend le contre-pied de ça. L'adoption, et c'est pour ça que commencer par parler d'adoption pour parler ensuite de la PMA, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile ensuite de parler de la PMA. L'adoption, ce sont des gens qui se passent du pilier biologique. Alors, je vais parler un peu des trois piliers. Parce que vraiment, pour moi, cette réflexion de Guyotat, donc si vous avez un ordinateur, c'est plus compliqué pour dessiner trois piliers. Enfin, si vous le faites vite, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez dessiner trois piliers. Hein, trois piliers, avec un pilier qu'on va appeler le pilier de la loi, le deuxième pilier, le pilier psychique. Alors, c'est moi qui l'appelle psychique parce que Guyotat l'appelait narcissique. Mais narcissique, c'est un peu trop confusionnant et puis j'en avais besoin pour ailleurs. Donc, le deuxième pilier, j'ai appelé psychique. Et le troisième pilier, qu'on va appeler le pilier biologique. Et Guyotat disait la chose suivante. Guyotat disait, parce qu'il est décédé il y a quelques années, hélas, et je ne l'ai jamais rencontré, ce qui est dommage aussi, et il disait la chose suivante. Il disait que toute filiation repose sur les trois piliers que je viens de vous dire. Mais on peut se passer du pilier biologique tout en sachant qu'il devrait être compensé par les deux autres piliers, psychique et juridique. Et en fait, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de compensation juridique ou psychique à cette absence de lien biologique, la filiation peut se casser la figure. Alors lui, il ne le dit pas comme ça, il dit la filiation sera soumise à rude épreuve. C'est pour ça que quand il y a une anomalie d'un pilier biologique, du genre un enfant qui est né par l'amant de la mère et non pas par le mari de la mère, et que. Tout le monde le sait, mais personne n'en dit rien. D'accord? Donc, vous voyez comment, au niveau psychique, il va y avoir une fragilité. Et pourquoi il va y avoir une fragilité? Parce qu'il n'a pas été renforcé. C'est-à-dire, il n'a pas été pensé, il n'a pas été élaboré. Il n'a pas été élaboré par la femme, ni par son mari, ni par l'amant, ni par personne, et encore moins par l'enfant. Et là, on voit bien comment ça peut vous donner une clinique typique, hein, ce que j'appelle une clinique filiative, hein, c'est-à-dire avec des failles par rapport à cette clinique. Les failles par rapport à cette clinique, c'est très facile, hein, c'est le sentiment tout simplement de ne pas avoir de père, de ne pas avoir de mère, ou de ne pas se sentir le fils ou la fille de ses parents. Alors ce qu'il y a de bien dans l'adoption, c'est que c'est une clinique où ces enjeux sont essentiels. Dans une clinique entre guillemets non adoptive, est-ce qu'un adolescent peut se vivre à un moment comme s'il n'avait pas de père ou pas de mère, alors qu'il vient de sous la couette et qu'il a été conçu 100% bio écolo? La réponse est oui, bien sûr. Parce que cette construction filiative, c'est valable pour toutes les modalités filiatives. C'est-à-dire, on sent bien que ça peut achoper. Et on sent bien que dans la crise d'adolescent, la distance qui est prise par l'adolescent à ses parents, c'est une distance extrêmement importante. Comment je peux avoir des parents aussi cons, etc. Tant mieux. Mais on voit bien que ça va rentrer dans un jeu où il va pouvoir les attaquer, les remettre en cause. La situation adoptive, qu'est-ce qui va vous dire l'ado adopté? Alors non seulement vous êtes con, mais vous n'êtes pas mes parents. Hein, c'est-à-dire, les parents, ils ont ce que j'appelle la double peine. Mais là, les parents, comment ils réagissent? Les parents d'ado classiques, vous n'êtes pas mes parents, enfin vous êtes nuls, etc. Et tout, les parents qui doivent résister, comme dirait jamais, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, très bien, maintenant tu vas dans ta chambre et tu fais tes devoirs. D'accord? C'est pas la fin du monde pour eux. Une famille adoptante. Voir une famille AMP, hein, qui a fait un don de sperme avec. Voilà. Le gosse, il lui dit, non seulement vous êtes nul, mais toi, t'es pas mon père. Comment il risque de réagir, le père en question? Ou le père adoptif? Ou la mère adoptive? Vous n'êtes pas mes parents, mes vrais parents, ils sont là-bas. Comment ils peuvent réagir? Eh bien, je peux vous le dire très simplement, ils peuvent réagir de la pire des façons. Ah, bah ouais, t'as raison. Ah ouais, c'est vrai, on n'est pas tes vrais parents. Tes vrais parents, c'est les origines, c'est le 100% bio, c'est l'écolo, c'est le. Et ça, c'est dramatique parce que ça va mettre l'enfant dans un désert identificatoire. Et ça, c'est le début de la fin. Hein, c'est un peu comme ces parents adoptants qui, en voyant un match France-Brésil avec un enfant d'origine brésilienne, ils disaient, alors, t'es pour qui? T'es pour nous ou t'es pour eux? Et là encore, il n'y a pas pire pour un enfant. parce que eux, ils se sortent de cette scène fantasmatique originaire. En fait, cette scène fantasmatique originaire, pour moi, elle est capitale. Hein, c'est-à-dire que ce qui va marcher dans ces filiations ou pas marcher, c'est la capacité des parents, aussi bien dans l'adoption que dans l'AMP, à être originaire de l'enfant. C'est-à-dire être originaire au sens psychique de l'enfant. S'il n'y avait pas eu de rencontre, il ne serait pas là, l'enfant. S'ils ne pensaient pas qu'ils auraient pu avoir cet enfant en raison de leur rencontre, de leur amour et de cette scène procréatique, s'ils ne peuvent pas se mettre en position originaire et qui valorisent le lien du sang au détriment du lien psychique, à ce moment-là, l'enfant risque de vivre, d'être ce que j'appelle un SDF, c'est-à-dire un sans domicile filiatif connu. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en gros, les échecs d'adoption sur lesquels j'ai travaillé, c'était ça. C'était des parents qui ramenaient avec sa petite valise l'enfant à l'ASE en disant, voilà, merci, hein, vous allez vous en occuper, nous, ciao, au revoir. Il ne veut pas de nous, il est horrible, c'est un cauchemar, il a des troubles de l'attachement, voilà, vous vous en occupez, pour moi, ce n'est pas mon gosse. Un gosse comme ça ne me parle pas de cette façon-là, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire aux États-Unis où un enfant, les parents adoptifs, enfin les parents entre guillemets, parce que pour moi, ce ne sont pas des parents, où les gens qui avaient adopté cet enfant l'ont mis dans un avion et l'ont renvoyé en Russie. Vous vous souvenez de cette histoire? Alors, tous les gens avaient dit, mais comment les Américains peuvent faire un truc pareil? Vraiment, pas étonnant qu'ils aient Trump et compagnie. Et en fait, en France, on ne cesse de voir ça. Simplement, on n'en parle pas. Et c'est un vrai sujet tabou, les échecs d'adoption. C'est pour ça que... Merci les conseils généraux avec qui j'ai travaillé, et puis merci les juges pour enfants, parce que j'aurais pas pu travailler sur ce sujet-là si les juges pour enfants ne nous avaient pas envoyé des cas d'expertise où il fallait rompre ce lien adoptif tellement qu'il était maltraitant. Donc c'est vrai que je parle des risques des parents adoptifs. Je vais parler des risques de l'enfant, parce que c'est compliqué d'être un enfant sans un lien bio avec des parents. Surtout quand il y a des traumatismes relationnels précoces, c'est-à-dire surtout quand il y a une clinique qui fait que la construction du lien en tant que tel est compliquée. À un moment, j'avais été invité au Mexique pour me dire « Mais on ne pourrait pas faire des programmes d'adoption pour les enfants des rues au Mexique ?» À votre avis, un enfant des rues, il est adoptable ou il n'est pas adoptable? Quand on arrive trop tard, il n'est plus adoptable. Parce qu'un enfant des rues sera dans une logique de survie, pas dans une logique de vie. Alors, une fois de plus, là encore, pour avoir travaillé avec l'UNICEF, le SSI et plein de... Il y a un délai au-delà duquel c'est trop tard. Quand c'est une petite expérience d'enfant des rues, ça va. Mais quand c'est trop, ça ne va plus. Parce que ce sont des enfants qui ne pourront pas régresser à une position infantile pour pouvoir permettre aux parents de devenir parents. Ils seront dans un tel état d'hypervigilance, dans un lien de survie, qu'ils ne pourront pas régresser. Donc c'est en général, la majeure partie des cas que j'ai pu avoir, c'est une contre-indication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre d'avenir pour eux, mais sans doute pas un avenir familial. C'est très compliqué pour un enfant qui n'a pas de capacité symbolique, qui n'a pas de capacité à accepter la régression, à se projeter dans un futur, surtout à se laisser dépendre de l'autre. Pour être adopté, il faut accepter la dépendance. Nous, la phase régressive dans l'adoption... c'est extrêmement important. Vous savez, chez l'enfant adoptif, il y a d'abord une lune de miel et ensuite il y a une lune de fiel. Au début, lune de miel, tout se passe très bien. Alors c'est très drôle parce que parfois l'ASE prévient les parents. Vous savez, il a un passé quand même un peu compliqué, surtout si c'est une adoption d'un enfant de 5-6 ans, pupille d'État, etc., qui a eu un passif traumatique important. Donc l'ASE prévient les parents. Vous savez, ça n'a pas été facile. À chaque fois qu'il arrive quelque part, c'est un peu compliqué, etc. Mais finalement, ça se passe bien. Et les parents, mais non, vous allez voir, pas de problème et tout. Il arrive chez eux, bien sûr. Au début, ça se passe très, très bien. Genre, les parents disent, mais enfin, il va très bien cet enfant. Vous savez, un peu comme dans les familles d'accueil, où au tout début, ça se passe bien. Et, bon, tout le monde sait que c'est une lune de miel et que ça ne va pas durer. Et puis ensuite, l'enfant commence à attaquer la famille, alors soit la famille d'accueil, soit la famille adoptante, etc. C'est-à-dire à montrer sa vraie souffrance. Nous, on attend que ça, parce que c'est ça ce qu'il veut essayer. Il veut voir si il peut être accepté avec sa souffrance. Et c'est pour ça que c'est si compliqué pour certaines familles adoptantes pas préparées du tout, qui ne sauront pas se transformer en parents, métabolisant, élaborant les angoisses, donnant des limites. C'est très dur. C'est très dur parce que ben voilà, il n'y a pas le pilier bio, il n'y a que le lien psychique. Et le pilier psychique, ben, il a intérêt à être renforcé, le pilier psychique. Comment on le renforce dans l'adoption, le pilier psychique ? Et le pilier juridique ? Comment on fait le renforcement des piliers ? Vu que c'est ce que Guyota a dit. Il faut que les piliers soient renforcés. Comment on renforce le lien psychique dans l'adoption ? Grâce à l'agrément. Voilà, l'agrément est censé agrandir le lien psychique, c'est-à-dire permettre aux parents de penser ce que c'est un lien avec un enfant où il n'y a pas la réassurance du bio. Et imaginairement, c'est pour ça que ces piliers ils communiquent, imaginairement, le lien bio est vachement important. Toutes les expressions, bah ouais, le sang de mon sang, t'es la chair de ma chair, t'es le sang de mon sang, mais même dans le langage sociétal, ah oui, mais ça appartient à l'ADN de l'entreprise. Okay. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas l'ADN de l'entreprise ? On est exclu, on est étranger. C'est quoi cette histoire d'ADN de l'entreprise ? Donc vous voyez comment les termes sociétaux, et puis je ne parle pas de la dernière campagne sur l'adoption des animaux de SPA, c'est horrible. C'est-à-dire Bref, tout ça pour dire que le lien bio est hyper valorisé à la maternité. Pourquoi il y a ce jeu idiot de « il a ton menton, il a les yeux du grand-père » ? C'est complètement idiot ce jeu, mais pourquoi tout le monde l'a fait ? À quoi ça sert ? Ça sert à se sentir familier avec un bébé qui, dans toutes les familles, ressemble à E.T. D'accord ? Donc, en gros, c'est ça, ce jeu stupide. Mais non, c'est pas E.T. Regarde, il a tourné. Bon, enfin, quand même. Cette réassurance narcissique, elle est obligatoire. Mais voilà, on est obligé de mettre du sang, du truc, du nez, des oreilles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus angoissant qu'un bébé. C'est horrible, il vient d'ailleurs, il pue, il sent mauvais, il crie, on n'a pas le droit de jeter par la fenêtre en plus. Donc c'est un cauchemar un bébé. Donc oui, on va y aller de la réassurance narcissique. Mais ouais, c'est le nôtre, mais t'es sûr que c'est le nôtre ? À propos, je voulais te dire un truc. Bien sûr que ce lien bio est tout de suite va avoir une valeur fantasmatique. Donc ça, il faut bien comprendre qu'un lien bio a une valeur fantasmatique. De réassurance narcissique. Donc, vous voyez bien comment le bio communique avec le psychique via le narcissique. Maintenant, une société qui dit « Ah ouais, bah, le lien bio, ça, c'est la famille. L'ADN de la famille, ça, c'est important. S'il n'a pas notre ADN, tout ça, on l'explore dans les entretiens d'agrément. C'est quoi pour vous un enfant qui va venir d'ailleurs, voire qui n'aura pas la même couleur de peau que vous ? Qui viendra d'une autre culture, qui vient d'une autre ethnie, qu'est-ce que ça vous fait ? Ah ouais, mais moi, les enfants, quelle que soit leur couleur, je m'en fous. Et nous, qu'est-ce qu'on répond là ? Ben non, c'est pas vrai. Et heureusement que c'est pas vrai. Bien sûr qu'ils s'en foutent pas. Ils doivent pas s'en foutre, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le cheminement vers l'enfant. Quand la personne nous dit dès le début qu'elle n'a aucune préjugé d'ethnie, de race, etc., c'est pas vrai. On sait, et pourquoi ? Parce que nous... Ce qu'on va rechercher, c'est justement le cheminement vers l'enfant, vers l'ethnie, vers la culture. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir l'adopter, cet enfant. Il va falloir accepter d'où il vient. S'il y a un refus de l'étranger, il y avait cette famille adoptante qui... Ah ouais, je me souviens quand on est allé au Cambodge, mais qu'est-ce que ça sentait mauvais ? C'était horrible. Le gosse adopté qui entend ça, Cambodge, horrible, ça sent mauvais. Comment vous voulez qu'il transforme ses parents en ses parents alors que déjà par rapport à son origine, elle est dénigrée et refusée ? Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut valoriser l'origine à tout prix. Il y avait comme ça cette famille versaillaise, hein, donc on faisait un groupe de parole là-bas, qui avait transformé son appartement en appartement japonais avec des cloisons, avec des trucs, du riz. Mais oui, mais on s'est appris à parler chinois parce qu'il vient de Chine, c'est hyper important les origines et tout. Donc, c'est pas compliqué. L'enfant là, il n'avait pas de filiation. Ni la première, ni la seconde. Il n'avait rien. Ce qui est compliqué dans l'adoption, c'est que les parents adoptifs vont devoir assumer le fait qu'il y ait eu un abandon d'enfant et trouver les paroles pour ça. C'est compliqué de parler de l'abandon à un enfant. C'est pour ça que si vous la valorisez à tout prix, les autres, ah ben ton pays c'est un pays merveilleux. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut ni le dénigrer ni le valoriser. Ah oui, ton pays c'est un pays merveilleux, fantastique. Ah, ta mère qui t'a abandonné, ben, c'était un geste d'amour extraordinaire. Et le gosse, ah oui, c'était un geste d'amour. Ben non, c'est pas un geste d'amour. C'est un geste quoi, le geste d'abandon? C'est un geste humain. Vous savez, depuis combien de temps ça existe, l'abandon? Depuis la nuit des temps. On a toujours abandonné les enfants. C'est pour ça que les histoires de l'adoption, en gros, c'est pour ça que depuis 20 ans, j'ai appris plein de choses sur le monde, hein, à la fois sur la maltraitance, certes, j'ai appris des choses, mais sur l'abandon. L'abandon, il y a une histoire de l'abandon à travers les siècles, ça a toujours existé. Comment? Oui, même Rousseau, mais même avant Rousseau. Vous savez, quelle est la première, quel est le premier signalement de l'abandon et de l'adoption dans le monde? C'est quoi le texte juridique qui en fait mention le premier? On va voir s'il y a des historiens parmi vous. Ou bien des juristes. C'est? Ah non, avant Moïse. Exactement. Bravo. Le code Hammurabi. Hein, le code Hammurabi, donc avant effectivement les 10 commandements et Charlton Heston. Donc le code Hammurabi fait mention bien sûr de l'adoption. Donc c'est vous dire, le code Hammurabi est le plus ancien code légal retrouvé, hein, moins 1450 avant Jésus-Christ. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toujours eu un recueil des enfants, tout le temps. Et parfois de l'exposition des enfants, et puis ensuite ça c'est en France, ça a toujours existé, puis ensuite l'Église a récupéré ça. Donc au lieu de les abandonner n'importe où, l'Église les récupérait. C'est pour ça qu'ensuite beaucoup d'anciennes œuvres d'adoption étaient faites par des religieux. Et puis il y a des religieux qui étaient d'anciens enfants adoptés, tout simplement, enfin d'anciens enfants abandonnés. Saint Thomas d'Aquin en est un exemple. Hein. Donc ça a toujours existé. Ensuite, l'assistance publique s'en est chargée. C'est-à-dire, si vous allez au musée de l'assistance publique, vous avez trouvé le tourniquet, c'est-à-dire un bébé qui était déposé là, et puis ça sonnait, il y avait une cloche qui arrivait, puis une bonne sœur arrivait, récupérait le bébé. Et c'est pour ça que parfois, il y a des prénoms un peu ridicules d'enfants. Hein, les enfants qui ont un nom de famille un peu ridicule, ce sont des enfants qui ont été abandonnés, puis qui n'ont pas été adoptés, c'est-à-dire où c'est un nom de pupille d'État. Quand il y a des enfants qui s'appellent Connard, qui s'appellent... Il y a des noms de famille qui s'appellent comme ça, enfin, avec des prénoms un peu ridicules. C'est très souvent des enfants qui ont été appelés par un prénom des personnes qui les ont recueillis au sein de l'institution, et d'où parfois des prénoms un peu ridicules, parce que ça met mal à l'aise, hein, l'abandon. Or, pour nous, c'est une question cruciale, cette question à élaborer l'origine de l'enfant. Parce que s'il n'arrive pas à métaboliser ça, soit dans le sens d'une supervalorisation biologique, il y avait comme ça des parents adoptifs qui nous disaient « Nous, on n'a aucun problème avec l'adoption. Tous les jours, on lui dit qu'il est adopté. » Ah, pauvre gosse. Pauvre gosse. Hein, c'est pour ça que c'est un équilibre fragile, parce que, bien sûr, ce qu'il en est de l'origine, ça doit être élaboré par les parents. S'il ne l'élabore pas, c'est le gosse qui devra s'en charger. Vous savez, toutes les émissions où il y a, je veux retrouver mes parents bio, etc., je vais aller au Vietnam, je vais aller en Colombie, je vais aller... Là, toute histoire de retrouvailles avec le bio, etc., quand vous grattez l'histoire familiale, qu'est-ce que vous trouvez? Une histoire traumatique. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, c'est un cas clinique classique, vous avez une famille adoptante qui vient vous voir, ou bien une famille qui a un enfant issu de PMA, et qui vous dit, ah bah vous savez, l'enfant il veut retrouver ses vrais parents. La question juste après que vous devez poser, c'est pourquoi maintenant? Et à ce moment-là, vous allez rentrer dans une histoire familiale. Nous, notre but, à chaque fois qu'on nous fait ce que j'appelle le coup des origines, c'est-à-dire le coup du bio, le coup de... la question c'est, ouais mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, avant, je disais dans 99% des cas, mais non, je dis dans 100% des cas, il s'est passé une histoire qui a déstabilisé l'enfant dans sa famille. Et à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose, juste mon mari veut me quitter, et puis, ah tiens, votre mari veut me quitter. Ou bien, le grand-père est mort. Ou bien, enfin, n'importe quoi qui a déstabilisé, ou une insulte à l'école. Et à ce moment-là, vous avez l'enfant, vous savez, les enfants, ils ne sont pas... Il résonne en systémique, hein. Il se passe quelque chose qui me déstabilise, hop, allons du côté du bio, 100% bio. Ils ont ce réflexe écolo par rapport au lien biologique. Et si les parents cèdent, c'est foutu pour le gosse. 7, c'est-à-dire ne cherche pas la cause qui l'a déstabilisé. Or, il y en a toujours une, toujours une. Vous savez, l'histoire d'Arthur, vous voyez qui c'est Arthur pour l'AMP, celui grâce à qui il y aura la levée d'anonymat pour les dons de sperme. Ah oui, vous n'avez pas du tout suivi l'actualité sur l'AMP, sur les... Ça fait depuis 10 ans que je me bats dessus. Et... Bon, il y a un type qui s'appelle Arthur de Kervasden qui a été reçu à l'Assemblée. C'est pas compliqué, il passait avant, j'arrivais après, etc. C'était une galère de... C'est donc cet homme qui est issu d'un don de sperme anonyme. Enfin, je ne viole aucun secret professionnel parce que c'est dans son bouquin. Voilà, déjà, ça met à l'aise. Donc, ce type-là, c'est lui qui a saisi la Cour européenne, le truc. Enfin, c'est vraiment une association militante pure et dure. Qui a fait tout son truc et toute sa vie a été construite pour lever l'anonymat des dons de sperme et des dons d'ovocytes. D'accord ? Il a réussi. J'applaudis la société qui a validé ce genre de propos militant. Mais déjà, vous pouvez voir comment... Non, je vais trop vite. Donc, ce type voulait lever d'anonymat. Mais pourquoi ? Parce que je veux savoir, non pas qui est mon père, mais je veux savoir d'où je viens, c'est important pour me construire, etc. Sans ça, c'est un véritable trou noir. Enfin bon, le discours classique, stéréotypé, formaté de droit des origines. D'abord, il faut savoir que ce discours est exactement le même que celui des enfants adoptés par rapport aux origines des parents de naissance. C'est le même, c'est la même chose. Et en fait, c'est exactement la même problématique et c'est exactement les mêmes causes qui ont provoqué ça, aussi bien chez les adoptés que chez les enfants issus de PMA. Pourquoi un enfant adopté, vous allez le retrouver dans la rue, je veux trouver mes origines, machin, etc. Pourquoi vous allez avoir ce discours militant ? Que j'oppose au discours où l'enfant ou l'adulte vient nous voir en cabinet et nous dit, je me pose des questions par rapport à qui sont mes parents. Pour moi, je différencie la scène clinique chez le cabinet de la scène sociale revendicatrice. Pour moi, ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Dans un cas, il va interroger un conflit et un désir. Dans l'autre cas, il va interroger un droit et ça va être figé. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose. En tout cas, cet Arthur qui, lui, n'interroge pas un désir, interroge un droit. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez retrouver la dernière émission où j'étais face à lui. Où ça s'est bien sûr mal passé parce que je lui ai dit, mais écoutez, vous nous dites que vous voulez trouver. Et il a trouvé d'ailleurs. Hein, il est allé faire l'analyse d'ADN, il a craché son truc. Dans une banque de sperme, etc., ils ont retrouvé le machin. Et voilà, et ça y est, j'ai enfin retrouvé. Ce n'est pas mon père, mais j'ai quand même retrouvé. Donc il ose. Parce qu'à chaque fois qu'il disait père, je lui rentrais dedans. Donc il a arrêté de l'appeler père, parce que c'est un père bio. Hein. Mais voilà, mais j'ai retrouvé maintenant, enfin je peux me construire et tout va bien, etc. Donc il a retrouvé le type par les dons de sperme. Donc il faut savoir que Google à côté, c'est rien par rapport aux banques de sperme du monde entier. Hein. Donc, et je lui dis, mais pourquoi vous voulez faire de votre souffrance une loi pour tous ? Parce que c'est toujours la même histoire. Au nom de ma souffrance, je fais une loi. Alors que votre histoire personnelle, elle a été très douloureuse. Et ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui ont une IAD. Quelle a été sa réponse ? Ben rien, on ne peut pas répondre à ça. Parce qu'il l'a mis dans son livre que dans sa famille, c'était un cauchemar cette histoire d'IAD. Et c'est quoi un cauchemar cette histoire d'IAD ? Ben, le père n'a pas assumé le fait qu'il y ait un don de sperme. Donc à partir du moment où vous avez une personne qui n'assume pas le don de sperme parce que lui-même ne se sentait pas père et donc n'a pas voulu en parler, puis tout à coup c'est sa mère qui balance le truc. Ah, au fait, j'avais un truc à te dire, ton père n'est pas ton père. Enfin, pas exactement, mais c'est le coup classique de ton père n'est pas ton père. Ça, j'adore ce truc. Hein. C'est, ah, au fait, ton père n'est pas ton père. Il y avait comme ça un film mais nullissime qui s'appelle Au témoin d'un doute. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, laissez tomber, ne le voyez pas. Ah bon. Non, mais c'est vrai que les histoires de filiation par rapport au bio, ça me... Et en fait, en gros, parfois ce tiers médical, il n'est pas pensable. Il n'est pas pensable. Parce que comment vous voulez mettre en devenir père alors que vous pensez qu'il n'y a que le lien du sang qui fait le père ? Si l'homme est obsédé par ce donneur et qu'il pense que sa femme a couché avec ce donneur fantasmatiquement, il ne pourra pas devenir le père du gosse. Si la femme pense que son mari, c'est un sous-père, mais que le vrai mec, c'est le donneur, elle ne pourra pas le mettre en position paternelle. Et le gosse, il se retrouvera sans père. Donc, c'est pour ça que, à titre introductif, je voulais dire tout ça. Maintenant, on va commencer vraiment la conférence. Voilà. Donc, enfin, tout ça, c'est... Enfin, je l'ai déjà bien commencé, bien entamé, mais pour moi, tous ces présupposés m'ont permis de penser ce que c'est que la filiation. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'ensuite, lorsque j'ai pris la parole sur l'adoption, bah oui, ça y est, c'est compliqué, la filiation avec deux hommes, avec deux femmes. Comment vous voulez penser une scène primitive? Avec une femme seule qui a recours à un don de sperme. Qu'est-ce que l'enfant va faire sans cette possibilité filiative par rapport à l'enfant? Comment elle, elle va penser l'absence? C'est-à-dire, en gros, les enjeux que je posais, c'était pas du tout des enjeux du style « les homosexuels, ils peuvent pas se marier ». C'était... Mon propos était filiatif. C'est-à-dire que pour moi, la filiation, c'est effectivement le... Je me suis rendu compte que ce qui marchait dans l'adoption, en gros, ce qui marchait dans l'adoption, c'est quand l'enfant pouvait s'originer de ses parents. Tout simplement. Et ça, cette origine de la part de son... Quand il arrivait à s'originer, ça voulait dire que les parents aussi pouvaient faire comme si cet enfant venait d'eux. Et ce « comme si », c'est essentiel. Il sait bien qu'il ne vient pas d'eux parce que, ouais, il n'a pas la même couleur de peau. Mais il aurait pu venir de cet homme et de cette femme. Et cette fiction qu'il crée, c'est une fiction psychique. Mais que cette fiction psychique, pour qu'elle soit aussi solide que l'enfant adopté, quelle que soit la couleur de peau qu'il a, pourra vous dire, ben voilà, mon père et ma mère, c'est voilà, monsieur et madame Durand. Et il sait bien qu'il vient d'ailleurs, mais il a pu élaborer une première scène, il a pu penser une première scène biologique qui a abouti à une interruption filiative, parce que l'abandon c'est ça, c'est-à-dire je refuse d'être ta mère de toujours. Je serai ta mère de naissance, je serai ton père de naissance, mais je ne vais pas m'inscrire dans une filiation de tout le temps. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il va devoir penser cette interruption filiative pour qu'il puisse penser la création filiative. Et que les parents vont pouvoir se mettre en origine de cet enfant au niveau d'une scène crédible de naissance. Et moi, j'ai toujours à l'esprit cette scène que m'ont racontée, mais pas une famille. Au début, la première fois que je l'ai entendue, c'est voilà, c'est vachement original, il va falloir que je m'en serve en conférence. Voilà, cette scène, elle est parfaite. Et puis, une deuxième, on a raconté, une troisième, c'est l'enfant qui, lui, en l'occurrence, il venait d'Éthiopie. Et son grand jeu, c'était « Raconte-moi la nuit où je suis né ». Et la nuit où il était né, c'était quoi, donc, il racontait? C'est-à-dire, son père et sa mère étaient dans le lit, il allait du côté des draps ou du côté de la tête, il mettait sa tête et puis il faisait le sous-marin, vous savez, le sous-marin, pour sortir au niveau du bas du lit, il foutait en l'air les draps et paf, il tombait et il recommençait le jeu. C'est une espèce de forda intrafamilial, vous voyez le truc. Voilà, et quand un enfant en arrive à créer une scène psychodramatique de ce genre-là, oui, ses parents sont ses parents. Et il les a transformés. C'est pour ça qu'on est dans le domaine psychique. On est dans le domaine de la transformation. Et à la fois, et l'homme et la femme, et je dis bien l'homme et la femme, ont pu se transformer en père et en mère. C'est pour ça que tous ces concepts, je ne cesse de les travailler aussi dans le champ de la maltraitance. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne pourront pas se transformer en père et mère. Mais c'est pour ça que l'une des bases, c'est déjà une crédibilité par rapport à sa place. Que l'enfant puisse, cette fameuse scène primitive, que cette scène primitive qui sera une scène secondaire, vu que primitivement il était conçu ailleurs, que cette scène secondaire soit crédible par rapport à l'enfant. Donc oui, la fiction juridique. Donc il se trouve qu'on appelle ça une fiction juridique. Et j'ai trouvé génial que ce terme de fiction juridique corresponde à une scène fantasmatique que se crée l'enfant. Et vous voyez comme quoi c'est hyper important que le juridique soit en voie d'équation avec le psychique. Et jusqu'en 2013, il y avait une parfaite adéquation. Quels sont les premiers qui ont utilisé le terme de fiction juridique en France? D'ailleurs, ce n'était pas en France, en Europe. Je suis bête. Ce sont les Romains. Ce sont les Romains qui ont utilisé ce terme de fiction juridique. Parce que c'est quand même incroyable. Voilà, cet enfant, ça sera votre enfant. Prends un enfant d'ailleurs, dis voilà, ça sera vous, le père et la mère. Mais comment une loi peut faire ça? Parce qu'à Rome, c'était parfois il y avait des intérêts, des héritages, etc. Mais voilà, je vais faire une loi, je vais me servir d'un truc. Ce truc, on va l'appeler la loi, et ce truc va me permettre de transformer vous qui n'avez rien à voir avec lui en père et vous en mère. Et alors là, du coup, les Romains, on s'en dit, ok, puisqu'on peut se servir de cet artifice, de ce truc, hein, une espèce de tour de magie, est-ce qu'on peut le faire avec tout? Est-ce qu'on peut transformer un enfant plus âgé en fils, Vous voyez comment les Romains, ils ont posé une question quasiment talmudique. Est-ce que l'on peut avoir un enfant plus âgé que soi? Ok. Bon, s'il y a des juristes dans la salle, ils connaissent la réponse. Qu'ont répondu les Romains? Donc, c'est-à-dire, puisque c'est une fiction, allons-y. On peut faire n'importe quoi avec une fiction, vu que c'est un artifice. Alors, qu'ont répondu les Romains à la question, est-ce qu'on peut avoir un enfant plus âgé que soi? En sachant qu'il y avait beaucoup d'amour à donner, qu'ils vont aimer cet enfant, enfin bref. Tout le discours sur l'amour, vous l'aviez déjà. Qu'ont répondu les Romains? Non, pourquoi? Effectivement, les juristes romains ont répondu non. Pourquoi ils ont dit non? Pour quelle raison? Histoire de... Non, au contraire, ils auraient demandé que ça. Non, vous pouvez élever un type plus âgé que vous. Non, éducatif, non. Non, c'est pas éducatif, c'est pas pour des raisons éducatives.
L'inversion générationnelle?
Oui. Et pourquoi l'inversion générationnelle, ça colle pas? Alors, Œdipe n'est pas d'accord, mais c'est pas tout à fait ça. Non, inversion générationnelle. Est-ce que vous pouvez avoir un enfant plus âgé que vous? Ben voilà. Donc, comment? Alors voilà, c'est là la subtilité de l'histoire. C'est pour ça que le pilier biologique, avant, je le virais complètement. Et ensuite, je me suis dit, ah ben non, parce que les Romains, ils ne l'ont pas viré complètement, le pilier biologique. La raison qu'ils ont donnée, c'est, ben non, ça ne serait pas une fiction crédible. C'est génial. C'est-à-dire que ça ne serait pas une fiction raisonnable. On ne peut pas penser en le voyant que c'est votre fils parce qu'il est d'une autre génération. Donc on ne peut pas aller dans... C'est une impossibilité. Et en fait, cette réponse, elle est... C'est-à-dire qu'une fiction marche pour autant qu'elle soit crédible. Et c'est là ce qui est passionnant. C'est-à-dire, oui, vous pouvez dépasser un lien du sang. Oui, vous pouvez avoir un enfant d'une couleur de peau. Il y a un sénateur qui m'avait dit au Sénat, et en plus, c'est resté dans les... Parce que c'est gravé quand vous êtes enregistré là-bas. Donc il y a un sénateur qui dit, bon, enfin, votre histoire de fiction, on sait bien qu'adopter un enfant noir, c'est impossible. Le sénateur l'a dit. Hein, donc là, c'est estampillé. Je dis, alors, monsieur le sénateur, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire, pour lui, la fiction, c'était impensable. C'était impensable. Je dis, mais non, heureusement qu'on peut dépasser le lien du sang. C'est la grande leçon des adoptions. L'adoption internationale n'est qu'une particularité de l'adoption nationale. Ça ne nous a pas appris plus que ça. Mais il faut... Et donc, un enfant d'une ethnie différente... Bien sûr qu'il peut dépasser le lien du sang, mais ce dont il aura besoin pour dépasser le lien du sang, comme tous les enfants adoptés, c'est une histoire originaire crédible. J'aurais pu venir de cet homme et de cette femme. Parce que pourquoi ils s'enferment tous les deux dans la chambre et on n'a pas le droit de rentrer? Parce que là, ils sont en train, effectivement, de fabriquer mes origines. Origine in progress. Hein, c'était Soulet qui racontait toujours cette anecdote, que je lui ai piquée au passage. Il disait, c'était cet adolescent qui disait à ses parents, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites l'amour alors que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Hein, mais c'est exactement ça. Hein, pourquoi ils font l'amour alors qu'ils ne peuvent pas? Donc ça, effectivement, c'est origine in progress. Et ça, c'est très, extrêmement important. C'est pour ça que ce registre filiatif, cette transformation, je différencie ce qu'il en est de... Je différencie ce qu'il en est de... On peut se passer effectivement du pilier biologique, mais pas du pilier symbolique de la procréation. Et c'est pour ça que c'est aussi important que le juridique n'évacue pas. Parce que si vous avez évacué cette dimension symbolique, bah vous tombez dans le registre éducatif. Bah n'importe qui peut être parent. Non, n'importe qui peut pas être parent. Parce qu'il faut le symbolique pour le parent. Oui, c'est une question d'engagement d'une personne. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. L'éducatif, c'est ce que l'enfant fera voler en éclats dès qu'il arrive. Un enfant qui va mal, si vous travaillez dans le champ de la protection de l'enfance, un enfant qui va mal dans une famille d'accueil ou un enfant qui va mal dans une famille adoptante, limite, le volet éducatif, il le fait voler en éclats dès le début. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le psychique et le juridique. Et là, effectivement, il faut que symboliquement, cet enfant soit relié. Donc oui, le registre de la loi, c'est important. C'est pour ça que pour nous, les décisions de justice sont capitales. Si les décisions de justice disent, ben voilà, c'est votre enfant, alors que le père l'a violé à plusieurs reprises, etc., un lien filiatif qui n'est pas interrompu alors que le père n'est pas un père. Bien sûr que ça fait des dégâts auprès du psychisme de l'enfant. Donc bien sûr qu'il doit y avoir une adéquation entre le juridique et le psychique. C'est pour ça que, pour en revenir justement au désir d'enfant et au biologique et à l'AMP, l'enfant va être le révélateur du cheminement vers lui. C'est le vrai problème des enfants. Vous voulez savoir si vous êtes solide ? Vous voulez savoir si votre couple est solide ? Ayez un enfant. Vous avez encore un doute ?
Faites-en un deuxième.
Un second. Au troisième, il n'y a plus personne. C'est terrible. Et pourquoi un enfant fait rompre les parents ? Alors, en plus, j'adore les parents. Non, ce n'est pas à cause de toi que nous sommes séparés. Bon, ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est à cause de lui. Mais tous les psys le savent. Pourquoi un enfant provoque la rupture de ses parents ? Qu'est-ce que met en évidence un enfant ? Il met en évidence les enjeux inconscients. Et ça, on ne lui pardonne pas. Et les enjeux inconscients, c'est tout ce que je viens de vous raconter. Par rapport aux origines, par rapport au cheminement vers lui, par rapport au cheminement vers l'autre, qu'on a choisi comme père et mère. C'est ce cheminement que l'enfant va révéler. Il y a un aphorisme un aphorisme fruit de 20 ans de travail dans le champ de la protection de l'enfance. Je vous livre cet aphorisme que je dois au principe de Peter. Tout enfant plongé dans une famille tend à élever celle-ci à son niveau d'incompétence parentale et filiative, parfois fatale. Voilà. Je vous le donne. C'est terrible, les enfants, pour ça. Oui, alors parfois, les incompétences, on peut les travailler. C'est quand la disparentalité est réversible, mais parfois, on n'y arrive pas. Parfois, une séparation du couple, on ne va pas arriver à travailler la séparation avec le couple. Et on va demander aux éducateurs, oui, alors vous devez travailler la parentalité, vous devez travailler le conflit. Non, bah parfois, ce n'est pas travaillable. D'accord ? C'est-à-dire, l'enfant est tellement révélateur des failles de chacun que parfois la faille de l'autre, elle n'est plus travaillable. Et parfois c'est à la naissance du premier enfant, parfois c'est au moment de la naissance. C'est terrible les gosses pour ça. Donc oui, ils vont révéler. Alors qu'est-ce qu'ils vont révéler chez le parent ? Ils vont révéler quoi chez le père ou chez la mère ? Leur ? Voilà, il va révéler quelque chose de l'infantile, mais surtout quelque chose de traumatique chez l'un des deux parents. Et que l'enfant renvoie à l'infantile du parent, c'est intolérable. Donc oui, il va y avoir des passages à l'acte. Oui, il va y avoir des violences. Oui, ces violences, elles sont parfois bien plus du côté de l'homme contre la femme que la femme du côté de l'homme. Et quand ce sont des violences de couple, ben c'est les deux contre l'enfant. Et ça, c'est un cauchemar pour lui parce qu'il a les deux contre lui. Donc bien sûr qu'il va révéler toutes les problématiques qui existaient avant sa venue au monde. Aussi bien dans l'adoption que dans l'AMP, que dans toutes les familles. Mais il se trouve que dans l'adoption et dans l'AMP, ben c'est encore plus vrai. Et il n'y aura pas la réassurance du pilier bio pour faire lien. Donc le psychique sera encore plus mobilisé. Et donc la fragilité sera bien plus importante. Mais tu as bien vu, voilà, on voit bien qu'avec la loi, on veut les origines et on va lever l'anonymat. Donc, ça veut dire que c'est vachement important pour se construire le bio. Donc là, ce qui est véhiculé dans la société, c'est que le psychique est moins important que le lien biologique. Merci les sénateurs et merci les députés. Donc pour nous, c'est un cauchemar la loi qui va venir sur la filiation pour les célibataires et pour les femmes seules et pour les femmes de même sexe. Pourquoi c'est un cauchemar ? Parce que va y avoir, enfin pour plein de raisons, dont l'une des raisons va être la levée de l'anonymat. Et vous avez 20 pages du texte de loi sur la levée de l'anonymat. C'est-à-dire, à peine on commence à leur donner la petite éprouvette, qu'on leur dit, ah ouais, mais le plus important pour l'enfant, ça va être plus tard quand il va rechercher son géniteur. Et les familles, ça va provoquer quoi au niveau psychique, ce genre de pensée qui est acté par la loi ? Donc non seulement on n'a pas agrandi le pilier juridique, mais on l'a rétréci. Le pilier psychique, on l'a rétréci. Donc vous avez deux piliers en place pour l'AMP qui ne vont pas supporter ce que c'est qu'une filiation. Ah oui, alors de toute façon, il faut qu'on te dise, à 18 ans, tu pourras trouver le nom de ton donneur. Et ça, c'est dans la loi. pour ça que je suis ici. Alors, vous pouvez trouver des auditions. D'abord, vous pouvez trouver la mienne, mais il n'y a pas que la mienne que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée du Sénat. Vous pouvez trouver aussi l'audition de Sarah Bidlowski. Hein, et elle aussi, elle est très bien. Mais pourquoi elle est très bien? Parce que nous, on a toute la clinique derrière. Nous, on a des femmes célibataires qui arrivent en disant, voilà, mon enfant, là, j'en peux plus, là. Hein, si on m'avait dit en Espagne ce que ça serait, je ne l'aurais pas fait. Et là, je ne peux plus le rendre. Et nous, on est là en consultation. Oui, ça, c'est sûr, voilà, vous ne pouvez pas le rendre. Mais pourquoi? Mais ouais, mais on ne m'avait pas dit que c'était aussi dur. Ben non. Tous les médias, vous avez vu un média qui a repris le discours. Vous savez, il y a des risques filiatifs. Et déjà, cette filiation, en tant que telle, elle est compliquée. Il y a que les professionnels qui le disent. Et encore des professionnels non militants. Vous avez des professionnels militants qui vous diront, ben non, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à aller en Belgique, ça se fait depuis toujours. Non. Non, c'est plus compliqué et c'est plus dur. Comment ces femmes arrivent à parler de l'absence de père? Il y en a une qui n'arrivait tellement pas à parler de l'absence de père qu'elle censurait les chansons. Et au début, je l'ai vue dans un cas, puis ensuite, j'ai vu dans deux, trois cas. C'est-à-dire, elle racontait « Maman est en haut qui fait du gâteau et mamie est en bas qui fait du chocolat. » Je disais « Mais vous êtes sûr que ce sont les paroles ?» Je disais « Mais je ne peux pas !» Et elle me le disait en toute honnêteté, dit « Je ne peux pas, j'arrive pas à parler de l'absence de père, j'arrive pas à parler de ce que j'ai fait, j'arrive pas à parler de mon cheminement. » Donc là, ça fait depuis de plusieurs mois, voire plusieurs années que je travaille avec ces femmes-là, l'élaboration du cheminement vers l'enfant. Et c'est-à-dire, pour élaborer ce cheminement, c'est-à-dire la même chose que dans l'adoption, pour moi, c'est voilà, le cheminement vers l'enfant, de quoi il est fait. Et là, on se rend compte que très souvent, ces femmes-là ont eu des histoires traumatiques. Des histoires traumatiques, pas avec n'importe qui, avec des hommes, et parfois pas avec n'importe quels hommes, avec des pères. Et elles le disent, je ne veux pas lui donner le même père que j'ai eu. Mais dans ces cas-là, vous voyez l'importance du lien par rapport à cet enfant, qui va avoir une véritable fonction par rapport à cette femme-là. Une fonction réparatrice, une fonction thérapeutique, une fonction où il sera en charge de régler une dette de vie de cette femme par rapport à sa propre famille. Donc par rapport à tout ce qu'on vous a raconté dans ce DU sur les enjeux intergénérationnels, sur les scénarios narcissiques de la parentalité, ben on est en plein dedans. Et donc c'est compliqué effectivement d'avoir récusé un tiers qui est celui qui aurait pu justement aider cette diffusion par rapport à cet enfant. Donc on a des cas mais hyper compliqués, et puis on a des échecs filiatifs. Et puis, on a des maltraitances. Hein, l'un des cas les plus graves que j'ai eu, c'était un enfant qui était... ils ont accouché à Paris. L'enfant a été placé au troisième jour. Ils avaient réussi à le brûler à l'hôpital. Je dis, mais comment vous avez fait pour le brûler à l'hôpital? Oh, ben, j'ai un peu confondu les robinets, chaud, froid. Ils avaient brûlé l'enfant à l'hôpital. Et en Espagne, comment ça se fait? En Espagne, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y en avait une qui était quasiment psychotique, l'autre pas moins. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les barrières qu'on a mises dans l'adoption pour l'agrément, au niveau de la PMA, il n'y a plus de barrières. Donc les parents qu'on récupère, ce sont des parents nos limites. Nos limites. Et en plus, leur désir a été validé comme un droit. Et même les gens non infertiles vont se diriger vers ces techniques-là. C'est-à-dire avant, l'AMP, c'était fait pour les problèmes d'infertilité. Mais c'est plus compliqué d'avoir un enfant. C'est-à-dire, vous savez que vous pouvez avoir un enfant, mais finalement, vous allez choisir une trajectoire de PNA avec l'illusion que cet enfant venant de la science n'aura pas votre héritage psychique. Et ça, c'est génial au niveau des entretiens. Quand vous avez vous savez que les entretiens avec les couples qui font une demande de don d'ovocytes ou de don de sperme, il y a un entretien avec un psy obligatoire, mais ce n'est pas un entretien sanctionnant. Autant l'entretien pour un agrément d'adoption, on fait un rapport, il y a une commission de famille, et ceci et cela, autant l'agrément avant les dons de sperme anonymes, il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire, si le père nous dit, de toute façon, moi je saurai que je ne suis pas son père, mais c'est comme ça, j'accepte tout à fait qu'il ait un géniteur autre, et un père biologique, c'est-à-dire tout ce genre de clignotant qu'on a dans les entretiens, vous ne pouvez pas le dire au médecin, « Eh oh, cette famille, vaut mieux pas. » Alors que c'est évident que le père qui nous dit ça, il faut plusieurs mois d'élaboration pour qu'il arrive à être 100% le père de l'enfant. Si un enfant qui est issu d'une famille qui a fait appel aux techniques de PMA n'a pas l'impression d'avoir une mère et un père qui sont à 100% ses parents, il fera éclater le couple. Mais toujours, toujours. Et les exemples que j'ai vus, ça a toujours été ça. Il y avait comme ça ce père qui me disait « Je sais que je ne serai qu'un père à 80%. » Je vous garantis que je l'ai gardé en entretien les mois qui ont suivi pour qu'il soit un père à 100%. Et une fois de plus, cette fragilité, elle est dans leur histoire. Mais si leur histoire fait écho à une dimension sociétale qui dit « Il faut lever l'anonymat parce qu'en fait, le vrai père, sans le dire, c'est l'extérieur », ça démolit le lien psychique avec le gosse. Et c'est pour ça que ce sont des histoires compliquées. Au niveau de la dette, c'est compliqué d'avoir un enfant qui représentera la victoire de cette femme sur les hommes. C'est compliqué à assumer pour un enfant. En tout cas, je pose la question. Est-ce que c'est le rôle d'un enfant d'assumer une victoire traumatique par rapport à des blessures passées? Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'en arrivent pas, etc. Mais ça fait partie des enjeux. C'est-à-dire, moi, tout ce que je dis, c'est que ce sont des enjeux à risque et qu'on n'a pas parlé des risques. Et qu'il est politiquement incorrect de parler des risques. Alors que nous, tous ces risques, ben on les connaît, ils sont balisés, et ça fait 20 ans qu'on les affronte. Et qu'on a déjà vu les dégâts de ces risques-là. Donc oui, ce sont des filiations à risque. Et même sur le plan de la clinique de base, ben c'est plus compliqué de priver un enfant de la complémentarité de l'homme et de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne le font pas, mais ça veut dire qu'au niveau de l'enfant, ben c'est est-ce que la société, en privilégiant par exemple les femmes seules, en acceptant qu'un enfant, est-ce que c'est le rôle de la société et des scientifiques de valider justement le fait qu'il n'y ait plus de père pour un enfant? Et quand ils vous disent « Ah ouais, mais il y aura le parrain, il y aura mon frère, il y aura l'oncle », je dis « D'accord, mais ce n'est pas un père ». Vous savez ce que c'est qu'un père? C'est du quotidien, c'est du tous les jours, et c'est galère, et on se fait chier. C'est ça un père. C'est pas un père de papier, non, c'est celui qui est là, etc. Et tout. C'est compliqué de renoncer à cette complémentarité. Donc ça veut pas dire que, ah oui, mais alors montrez-nous des études où il y a... Alors d'abord, ces études existent, hein, c'est parfois plus compliqué pour les enfants, donc ça on le sait, mais pour moi, c'est pas sur des études qu'on fait une loi. Pour moi, la loi, c'est quelque chose qu'on décide ensemble. Je ne repose pas des lois sur des données scientifiques. Maintenant, effectivement, ces données existent. Et oui, c'est plus compliqué pour les enfants. Voilà ce qu'on peut dire. Mais une situation de séparation, c'est plus compliqué pour un enfant. Et là encore, on le sait, c'est-à-dire l'un des grands risques, justement, de criminalité, de psychopathie, c'est l'absence de père. On le sait, ça. Tous ceux qui travaillent à la police, dans l'éducation, etc., l'absence de père, c'est dramatique au niveau de l'incarnation de la loi dans la famille. La démission des pères, c'est dramatique. Les pères qui partent, c'est dramatique. Donc comment, alors que l'on sait tout ça, on va dire, ok, maintenant on va faire une loi pour dire, ok, l'éradication du père, allez-y, sans prévenir des risques? Alors effectivement, chez certaines, ça pourra marcher, et puis voilà, mais toujours, la question qu'on se pose, c'est à quel prix? C'est-à-dire, l'enfant paye quel prix pour représenter le paiement de cette dette filiative de sa mère par rapport à ses parents. C'est pour ça que c'est pour moi, ces enjeux sont des enjeux intergénérationnels. Et une fois de plus, celles qui viennent nous consulter s'interrogent là-dessus. Mais c'est comme les couples. Moi, j'ai reçu plein de gens de couples de même sexe dans l'adoption. Pourtant, ils savaient que je considérais ça comme un risque par rapport à la filiation. Mais il y a des couples homosexuels qui ont bien compris le truc. D'abord, ils n'ont pas fait de filiation où les deux ont le même statut. Il y a un père et il y a le copain du père. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont bien compris que c'était une absurdité, cette histoire de filiation. Maintenant, bien sûr, c'est possible pour un enfant d'avoir un père et le petit ami du père. Et l'enfant n'est pas dupe. Il appelle son père papa et puis l'autre, il l'appelle d'un autre nom. Et l'hypocrisie de cette loi des couples de même sexe, c'est que qui met les deux parents dans le même statut... Jamais un enfant dans une situation adoptive avec un couple de même sexe appelle maman-maman et maman-maman ou papa-papa et papa-papa. Ils sont toujours différenciés. Et pourquoi ils sont toujours différenciés? Parce que l'enfant, il ne veut pas devenir fou. Il sait bien qu'il n'y en a qu'un seul qui peut être père ou qu'un seul qui peut être mère. C'est aucune seule qui peut être mère, je commence à m'embrouiller. Hein, mais c'est évident. Et éducativement, l'autre a une place importante. Et la loi aurait dû renforcer la position de l'autre. Mais la société n'a pas voulu faire les choses bien, et donc a fait voler en éclats la notion de fiction juridique. Donc, au niveau de l'adoption, ça va atteindre tous les enfants adoptés, vu que la fiction juridique ne tient plus. Et là, une fois de plus, c'est pour ça que là encore, je différencie les militants purs et durs, qui sont responsables de cet état de fait, et puis les autres qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui ont subi ce discours idéologique. Mais c'est vrai, ça rentre dans des combats compliqués. Pour vous donner une idée de l'importance de ces combats, nous, depuis l'année 2002, on dit, vous savez, la loi de 2002 sur l'autorité parentale, c'est une catastrophe. À temps égal, parent égal, la mère, c'est pas la même chose que le père. Ça, on l'a dit en 2002, c'est-à-dire 10 ans avant la loi de même sexe. Et c'était pas parce qu'on était... voilà, le père et la mère, au niveau de la complémentarité, c'est totalement différent. La loi de 2002 a dit, ben non, à temps égal, parent égal. Pour ceux qui récupèrent les dégâts des résidences alternées chez les petits gosses, ben voilà, bravo les sénateurs et bravo les députés. Merci d'avoir égalisé la mère et le père. Aucune féministe n'a bougé le petit doigt. Il n'y a que les cliniciens qui sont descendus dans la rue, si je puis dire. Et encore, c'est vachement dur à nous rassembler. Et on voit bien comment l'enfant paye, mais tous les jours, cette histoire du fait que la femme et l'homme, c'est la même chose dans la loi de 2002 des séparations. C'est dramatique. Là, je viens de sortir d'une consultation où le gosse, enfin d'une expertise en l'occurrence, où le gosse était le mardi, mercredi chez le père, les jours suivants chez la mère, puis ensuite chez le père, puis ensuite... Il a 2 ans, le gosse. 2 ans, le gosse. Et là encore, effectivement, on est, nous, très fâchés contre les sociologues, parce que certains sociologues, c'est un cauchemar pour la société. À temps égal, parent égal. Il faut être aussi bête qu'Irène Théry pour le dire. Attends, c'est enregistré, mon truc ?
Oui. On va lui envoyer ailleurs.
Non, mais c'est terrible, parce que la logique psychique, c'est pas la même. Nous, on sait que ce sont des choses complémentaires. Et on sait qu'ensuite, les statuts s'égalisent. Et on sait que la mère, peu à peu, elle doit sortir de sa préoccupation maternelle primaire pour ensuite... On le sait, tout ça, ça fait depuis 50 ans qu'on le sait. Et une sociologue va nous dire, ah ouais, mais c'est important l'égalité de la mère et du père. Mais le tout, c'est pas de les égaliser. Le tout, c'est de les différencier pour que ce soit complémentaire. Ça veut pas dire que l'un est moins que l'autre. Les résidences alternées où c'est mal fait, l'enfant n'aura ni père ni mère. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'a fait la loi. C'est-à-dire, la relation avec la mère, elle sera fusionnelle parce que l'enfant sera profondément angoissé. Et avec le père, elle sera distante. Et au niveau de l'adolescence, il lui dira au revoir. Voilà, super, génial. Merci, la loi de 2002. Vous ne pouvez pas forcer un enfant à avoir un père et une mère. C'est de la construction. C'est de la construction. Donc, bien sûr que moi, je ne parle plus que de... Je reprends les termes de Racamier en parlant de paternalité, de maternalité. C'est la seule façon de s'en sortir. Et heureusement que ce n'est pas la même chose. Heureusement qu'un père n'est pas une mère comme les autres. C'est évident tout ça. C'est pour ça que les dettes que font payer les parents aux enfants quand ils font cette technique-là, ces dettes sont encore plus visibles. C'est pour ça que tout ce que j'ai appris dans la clinique de l'adoption et de l'AMP, ça me sert énormément pour la clinique classique. Parce que je voyais mal ces enjeux. Maintenant, je les vois tout le temps. Tout le temps. La mort de Johnny Hallyday, oui, c'était quoi les enjeux au niveau de l'héritage, au niveau psychique? C'est-à-dire, du coup, ça devient un réflexe. Vous voulez savoir la qualité de vos liens avec vos frères et sœurs ? Faites un héritage. C'est-à-dire, on voit bien comment l'invisible apparaît dans ces choses-là. Donc maintenant, le réflexe filiatif, je l'ai tout le temps. Et on voit bien comment parfois ça chope. Et dans les expertises, je ne vous dis pas. C'est évident qu'un homme qui viole ses enfants régulièrement, comment des journalistes peuvent continuer à l'appeler père ? Et comment des juges peuvent dire, bah ouais, vaut mieux un père que pas de père du tout. Bien sûr qu'il vaut mieux pas de père du tout. Donc il y a des histoires comme ça terribles. J'ai le temps de raconter une histoire horrible ou pas ?
Oui, vous pouvez. Allons-y.
Allons-y. Une histoire horrible. Est-ce que je l'ai mise ici ? C'est une histoire d'un enfant, de deux enfants, qui ont été. L'aîné a commencé à faire la première fellation à son père. Elle avait 8 ans, donc c'est sa mère qui l'a amenée auprès de son père pour faire la première fellation. Et puis ensuite, très vite couché avec. Et puis l'aînée, elle était jalouse de la fille qui avait ses rapports avec son père. Puis elle aussi, elle a voulu y passer. Tout ça, les services sociaux, ça passe sous les radars, c'est une famille irréprochable. Et, Et puis, y avait plusieurs avortements qui ont été faits. Avortement chez les mineurs, il n'y a pas eu les clignotants. S'il y a bien un clignotant qui doit exister, c'est avortement chez les mineurs. Bon, je ne vous parle même pas de la loi avec l'IVG. Bon. Donc là, il y avait un vrai clignotant. Avortement chez les mineurs. 2, 3 avortements chez les mineurs. C'est passé sous les radars. Et au bout d'un moment, il y en a une qui devient majeure et qui va avoir un enfant. Et là, pour le coup, ça va commencer à se savoir. Et comment ça va commencer à se savoir? Parce que lorsqu'elle a eu cet enfant avec son père, l'autre, la cadette, était jalouse. Et elle va aller aux services sociaux. D'accord? Vous reconnaissez cette histoire ou pas?
Non.
Ah, vous lisez pas. Comment? Non, c'est une histoire un peu plus ancienne que ça. Oui. Oui. Enfin, l'histoire, je l'ai dit parce qu'elle est allée dans les journaux. C'est pas une histoire d'expertise. Mais attendez, j'essaie de retrouver mon truc. Et donc, la cadette va dénoncer les maltraitances du père depuis des années et des années. Donc, il va y avoir un procès, il va y avoir l'ASE qui va s'en mêler. Et en fait, ça a duré près de 10 ans d'instruction. Déjà, 10 ans d'instruction pour une histoire de viol et d'inceste. Vous voyez comment notre société déconne. 10 ans d'instruction, alors que ce qu'il faisait, c'était depuis toujours. Tout ça pour vous dire que lorsqu'il passe en procès, elle a un discours, l'enfant, qui est de dire « j'aime mon père, la société ne peut pas comprendre ». Et le père de dire « on en a toujours voulu aux homosexuels, personne n'a compris les homosexuels, mon amour, personne ne le comprend non plus ». D'accord ? Il y a un expert psy, que je ne nommerai pas, qui a dit « il faut pouvoir imaginer des incestes heureux ». D'accord ? Voilà pour les experts psy. C'est pour ça qu'avec Berger, on fait un DU d'expertise en ce moment pour des psychologues et des psychiatres. Et donc cet homme sort, bon, il est condamné à quelque chose d'assez symbolique au niveau de la peine de prison, comme il en avait fait déjà un peu. Il est sorti bras dessus, bras dessous avec sa fille, avec les photographes et compagnie. Et quand j'ai appris cette histoire, au moment où il y a ces histoires de ressortir bras dessous avec sa fille, avec l'enfant, avec l'enfant, vous avez bien compris. Et puis, j'aimerais quand même retrouver cette histoire. Et là, j'en parle à des collègues, je dis, cette histoire d'inceste, cette histoire de truc, ça peut que mal finir. Que mal finir. On attendait que ça finisse mal, effectivement. 2 ans après, chose comme ça, 2 ans après, bon, c'est l'affaire Manéchez, si vous googlisez l'histoire. L'affaire Manéchez. 2 ans après, cet homme retrouve la trace de sa fille qui s'était échappée avec son fils, a abattu le garagiste qui l'avait accueilli, a abattu sa fille et s'est tiré une balle au niveau du menton. Ouais. Vous allez me dire, c'est la Seine-et-Marne, c'est ça?
Non,
c'est pas la Seine-et-Marne.
J'ai eu peur. Parce que je suis tellement pas bon en géographie, ça aurait été un flagrant délit devant tout le monde, ça aurait été horrible. Et il n'est pas mort, il a eu des séquelles, ok. Donc il y a eu un procès cette fois-ci, pour un autre procès, pour meurtre, machin, etc. Et finalement, il pouvait parler, il y a eu le procès, il a été condamné à 20 ans de réclusion, etc. Et tout. Il a dit, je ne ferai pas appel. Il est rentré dans sa cellule et il est mort. Il ne s'est même pas suicidé. Il est mort. Mais 2 jours après le jugement, etc., il est mort. Et pour moi, ce genre d'histoire, ça montre à la fois les failles de la société, à la fois les failles au niveau de la punition, à la fois les failles au niveau du discours, c'est-à-dire comment un psy peut dire il existe des incestes heureux, c'est-à-dire ça, c'est un tel flou des repères symboliques, juridiques, et l'histoire de cette famille. Alors moi, dans mon prochain livre, j'en fais tout un chapitre parce que c'est passionnant au niveau du discours du type, du discours de la défense, qui était horrible et qui était à justifier la pédophilie. Et vous vous rendez compte, comme avocat, justifier la pédophilie et l'inceste au nom de l'amour ? Il faut le faire. Et je me demande si l'avocat... Non, je ne vais pas le dire. C'est enregistré. Oui. Je pense que c'est celui à qui vous pensez.
Oui, voilà.
Et parce que c'était lui aussi. À Outreau, c'était aussi lui. Donc c'est que pour les étudiants, les enregistrements.
On va s'arranger,
Et donc voilà, donc tout ça pour dire que, bien sûr, pour nous, ces enjeux légaux sont extrêmement importants. Ils sont extrêmement importants parce que ces histoires de dettes, c'est toujours une histoire. Qu'est-ce qu'on fait payer à nos enfants ? Et c'est vrai que les enfants révèlent le traumatique de chacun, aussi bien le traumatique des hommes que des femmes, que qui vous voulez. Hein, pourquoi un enfant maltraité risque d'être violent et d'être psychopathe plus tard ? Pourquoi les enfants qui ont été violés seront dans de grandes proportions des futurs violeurs ? C'est pas un gène, le viol. Pour moi, à chaque fois qu'il y a eu ces histoires de prêtres pédophiles, il y a eu des films remarquables et des documentaires remarquables, je ne cessais de dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à ces prêtres ? Et ces prêtres, mais on est toujours dans le domaine de la maltraitance. Alors parfois dans le domaine de la maltraitance sexuelle, mais parfois dans le cadre de la maltraitance psychique. C'est pour ça que moi, la vraie prévention filiative, c'est une prévention filiative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'intervient pas plus tôt, qu'on ne croit pas les enfants plus tôt ? Alors c'est vrai, vous ne m'avez pas branché sur la parole de l'enfant, mais peut-être que j'en parlerai un jour. Vous savez que lorsqu'un enfant révèle spontanément une affaire de violence sexuelle, vous savez dans combien de pourcents des cas il a raison ? 99,6% des cas, par une étude du Canada. Donc l'affaire Outreau, pour nous, mais ça a été dramatique, l'affaire Outreau. Et là, pour le coup, c'est celui à qui vous pensez qui a été l'avocat des adultes. D'accord ? Donc pour nous, ça a été dramatique. Donc nous, dans nos expertises, on remet les statistiques canadiennes. Vous savez, quand un enfant parle ça spontanément, surtout si c'est à des tiers, surtout si ceci, c'est un enfant, c'est compliqué qu'ils disent « Oui, c'était comme du chewing-gum dans ma bouche et j'ai recraché, c'était tout blanc ». D'où un enfant peut inventer un truc pareil ? Il n'invente pas un truc pareil. Oui, c'était du pipi, mais ce n'était pas du pipi. D'où un enfant... Les paroles des enfants, c'est « Ah ouais, mais c'est la mère qui fait de l'aliénation, c'est pour manipuler. » Non, ce n'est pas pour manipuler. D'accord ? Il a vraiment violé. Les cas où effectivement... Alors ensuite, on a des repères, nous, pour savoir les cas d'emprise du côté de la mère et tout. Bien sûr que ça arrive. En 20 ans, ça m'est arrivé 4 fois de voir une emprise parentale du côté de la mère. 4 fois, bon... C'est rare, 4 fois sur près de 200 à 250 expertises. C'est rare. Bien sûr qu'il faut savoir le repérer. Mais l'enfant... Donc il y a un vrai problème par rapport à la parole de l'enfant et par rapport au recueil de la parole de l'enfant en justice, que ce soit dans la brigade des mineurs, que ce soit par les éducateurs, que ce soit... Il y a un immense problème de crédibilité de cette parole. Et c'est vrai qu'on a les ouvrages de Michel Cyr, Apprenez-les par cœur, hein, C-Y-R, avec les repères qu'elle a des protocoles NCHID qui sont, voilà, il faut suivez le protocole, inspirez-vous des protocoles et vous verrez que vous ne ferez pas d'erreur et que vous dites, ah ouais mais non, c'est la mère qui dit ça pour récupérer l'enfant. Non, vous savez pourquoi les hommes passent aux actes lorsqu'ils sont en situation de séparation ? Parce que justement, ils sont en situation de séparation. C'est pour ça qu'ils agressent sexuellement le gosse. C'est pas parce que la mère veut récupérer le truc. Il y a des mères qui respectent le droit et qui l'amènent régulièrement et à un moment, l'enfant, il lui raconte des trucs pas possibles. Mais pourquoi tout à coup parce que le père n'était plus avec cette femme. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'agressions sexuelles dans les situations de séparation. Mais j'en fais plein dessus. Et là, je vous garantis que le doute, il ne bénéficie pas à l'enfant. Hein. Donc, mais ce n'était pas mon sujet. Là, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Oui, à cause de Manéchès. C'est vrai que l'histoire de Manéchès, c'est assez terrible. Donc c'est pour ça que cette dette narcissique, c'est-à-dire pour moi, je différencie justement les dettes oedipiennes des dettes narcissiques. En gros, on est censé rendre nos enfants névrosés, si tout se passe bien. C'est-à-dire, on a tous une dette oedipienne, c'est-à-dire, on s'est retenu de notre toute-puissance, on ne les a pas tués, on ne les a pas violés, on ne les a pas frappés, voilà. Donc ça, on s'est empêché de ça. Parce que là encore, un tout petit mot sur l'Oedipe. L'Oedipe classique, au sens freudien du terme, qu'est-ce qu'il a vu, Freud ? Freud, il a vu l'enfant qui veut tuer son père et coucher avec sa mère. Qu'est-ce qu'il a vu, Freud ? Il a vu une toute petite partie des choses. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu, Freud, alors qu'il l'avait sous les yeux? Pourquoi, qu'est-ce que Laïos avait fait à Oedipe? Pourquoi Laïos, il s'était passé un truc avant, entre Laïos et Oedipe? Ouais, et avant de l'abandonner? Pourquoi il l'avait abandonné d'abord? Oui, mais avant qu'il savait qu'il allait le tuer. D'abord, il n'a pas abandonné, il a voulu le tuer. Donc déjà, Oedipe, c'est une tentative d'infanticide ratée. D'accord? Donc il l'a cloué au pied, parce qu'à l'époque, on clouait au pied, c'est pour ça que ça a donné Oedipe. Oedipe, c'est œdème des pieds, pour les... Voilà, œdème des pieds. Oedipe, donc déjà, son nom était insignifiant en soi. Œdème des pieds, parce qu'il l'avait cloué sur le mont Citerion. Et donc, il l'avait abandonné pour mourir. Donc, ce n'était pas une petite histoire, c'est une tentative d'infanticide. Avec un risque d'insolation majeure, comme dirait ma mère, et mets ton chapeau. Donc, déjà, il y avait une tentative d'infanticide ratée, donc ce qui n'est pas rien, avec cloué au mont. Il a été rescapé par un berger qui passait par là, donc il a décloué ce bébé. Donc, vous imaginez un bébé, combien d'heures il était décloué. Donc, déjà, vous voyez les TRP. Personne ne parle des TRP de type. Moi, j'en parle. D'accord? Et pourquoi c'est si important, les traumatismes relationnels précoces d'Oedipe? À quel moment il a tué Laïos? Parce que là, c'est un collègue psychanalyste grec qui m'a fait remarquer. Parce que le coup des... Bon, déjà, je vous ai mis la puce à l'oreille avec le coup des pieds cloués. Laïos, soit lui a écrasé les pieds par son chariot, soit lui l'a frappé des pieds avec sa lance. C'est-à-dire que les mythologues de l'époque, ils avaient déjà lu le livre de Bonneville Baruchel. C'est-à-dire que lorsque vous réactivez un traumatisme, ça fait effectivement comme un PTSD, un post-traumatic stress disorder. Donc personne ne parle de deep comme l'équivalent d'un soldat qui revient du front. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il lui écrase le pied, Oedipe devient fou, il tue tout le monde. Donc c'est génial au niveau mythologique. On ne saurait mieux faire par rapport au traumatisme relationnel précoce et par rapport à ce que c'est que le traumatique. Et quand vous pensez Oedipe comme un enfant traumatisé, vous ne voyez plus de la même façon. Et d'ailleurs, vous ne voyez plus l'Oedipe de la même façon. Un gosse qui veut tuer son père, votre réflexe, ça ne doit pas être de dire « Ah ouais, il est en train de faire son Oedipe ». Non. Il dit « Oui, il lutte pour sa survie ». Et à ce moment-là, vous voyez En gros, j'ai commencé à me pencher sur l'Oedipe lorsque j'ai bien vu que ces théories de traumatique à Freud, bah, il avait raison au début, avec les pères agressifs, violeurs sexuellement. Pourquoi Freud a renoncé à sa neurotica? Il avait raison. Et en lisant les trucs de Ferenczi, je me suis rendu compte que bah, les gosses, ils avaient raison en parlant de ça. Et pourquoi ensuite on a commencé à innocenter les parents? Bah, en fait, il ne faut pas les innocenter. Et en gros, tous les pédopsies qui travaillent dans la protection de l'enfance, ils travaillent avec cet Oedipe 2.0. C'est-à-dire, un enfant qui veut tuer son père, quelles sont les raisons qu'il a de le faire? Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous allez tomber sur des maltraitances que vous n'aviez pas imaginées avant. Alors, je dis ça maintenant au sens plus général. Un enfant violent, psychopathique, machin, qu'est-ce qui lui est arrivé dans son enfance? Et il se trouve que le milieu de l'enfance, il est petit, donc on se connaît tous. Et je pense que vous connaissez comme moi tout le passé de tous ceux qui sont au procès de Charlie. Hein, c'est-à-dire, vous avez lu les livres de Berger là-dessus, là encore, sur l'enfance des terroristes et compagnie, ou de... Il n'y a pas une enfance d'un criminel qui ne soit pas traumatique. Mais pas une. C'est-à-dire, Et à un moment, il y a l'histoire du gang des barbares, hein, et il y a une assistante sociale qui me dit, tu sais que je le connais bien. Je dis, ben oui, ben on l'a placé, mais on l'a placé trop tard. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas une histoire de violence extrême, de violence criminelle, qui n'a pas son origine dans quelque chose de traumatique. Et je vais vous dire, heureusement, pourquoi heureusement? Parce que déjà, heureusement, il n'y a pas de gêne de la violence. Et deuxièmement, ça veut dire qu'on aurait pu prévenir si on faisait des lois adéquates dans le champ de la protection de l'enfance. Si on nous donnait les moyens d'intervenir plus tôt, de travailler la disparentalité pendant 2 minutes, mais ne pas inciter plus. Bon, je rigole. De travailler certes la disparentalité, mais de ne pas travailler ça pendant 10 ans. Sinon, c'est trop tard. C'est pour ça que par rapport à ce champ de la PMA, de l'adoption, etc. Ce sont des filiations qui sollicitent encore plus le cheminement vers l'enfant et le plus la capacité de transformer un enfant qui ne vient pas de soi comme s'il était de soi. Mais on peut le faire que si on aura une histoire traumatique pas trop lourde. Parce que tous les échecs d'adoption que j'ai vus, comme les échecs d'AMP que j'ai pu voir, c'était quand les histoires personnelles étaient trop lourdes. Et que l'enfant y renvoyait tellement à cette histoire personnelle qu'il n'avait plus de place d'enfant. C'est ça qui était terrible. C'est pour ça que parfois, et les cas d'échecs de GPA, je commence à voir les échecs des GPA. Mais merci la société. Et pourquoi les échecs de GPA? Mais pour les mêmes raisons que je vous raconte. C'est compliqué de sortir un enfant d'une transaction financière. C'est pas évident d'avoir considéré l'enfant comme un objet. Vous avez lu les contrats des GPA? Googlez contrat de GPA. Pour ceux qui parlent anglais, ils ont tout prévu, les Anglais. Et c'est un contrat. Et qu'est-ce qui se passe si la mère meurt? Combien elle touche? Combien ces trucs touchent? C'est-à-dire considérer l'enfant comme un objet de transaction. Alors là, effectivement, je suis d'accord avec Sylviane Agacinski. Hein? C'est-à-dire on ne peut pas faire de GPA éthique, c'est contradictoire. C'est compliqué de considérer le ventre comme dirait Berger, alors pas Berger, Maurice Berger, mais l'autre Berger de Saint-Laurent, comme le bras des ouvriers. On exploite les bras des ouvriers, pourquoi ne pourrait-on pas exploiter le ventre des femmes? Et pourtant, de gauche, soi-disant, le type, c'est terrible. C'est-à-dire, oui, je pense que c'est compliqué pour un enfant de s'originer d'un contrat. Donc dans une logique économique, donc dans une logique de marchandage. Et ce qui se passe avec les GPA, ça existe encore plus avec l'AMP. Vous savez que le coût du sperme que vous achetez, j'ose pas dire,
dites,
le coût de la bourse. Mais il faut savoir que c'est indexé. Et c'est indexé à quoi, à la bourse? C'est indexé à tous les renseignements que vous avez sur la personne. Et plus vous avez de renseignements, plus il a de diplômes, plus vous payez cher le sperme. C'est-à-dire tout ça pour en arriver là. Alors certains diront que c'est du progrès, moi je pense pas. Hein, c'est-à-dire moi je pense que c'est une vraie régression de tout de suite au niveau de la charge de l'enfant lui mettre tout ça comme étiquette. Et si jamais il redouble une classe, hein, vous avez vu Bienvenue à Gattaca?
Oui.
Ok. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous autorise à streamer. Enfin, en plus, c'est sorti sur Netflix pour faire un peu pub. Je pense qu'ils l'ont refait. Bienvenue à Gattaca c'est en train de se passer, en gros. Et c'est vrai qu'actuellement, dans certains pays, les gens ont des exigences non seulement sur le sexe, mais non seulement sur les diplômes, mais sur tout le codage génétique. J'exige qu'il n'y ait pas de risque pour les infarctus, qu'il ne soit pas obèse, qu'il ne soit pas ceci, qu'il ne soit pas cela, Et là, vous vous dites, ok, c'est ça le progrès? Donc non, c'est pas ça le progrès. Bien sûr que c'est régressif. Plus on considère l'enfant comme un objet, moins c'est le progrès. Hein, c'est pour ça que ce qu'on nous vend comme du progrès, c'est pas du progrès. Mais c'est vrai que les gens tombent dans le panneau facilement. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que donc si je vous parle de l'AIOS, c'est que l'AIOS, alors le il faut voir l'histoire de l'AIOS pour savoir pourquoi il en est venu avoir cette malédiction. C'est-à-dire, il en est venu avoir cette malédiction parce qu'il avait déjà violé un adolescent qui s'est suicidé. Donc les enjeux, ce sont toujours des enjeux de vie ou de mort. En gros, la venue d'un enfant au monde plonge les parents dans des enjeux existentiels, de vie ou de mort. Donc ça vous explique effectivement le champ de la maltraitance, mais ça vous explique aussi le champ enfin, le risque pour l'enfant, bien sûr, d'instrumentalisation de cet enfant qui naît. Et que la PMA, on a tellement codifié cet enfant de la science que transformer cet enfant de la science en son enfant, eh ben c'est un travail. Il y en a une qui, pendant des années, pensait que c'était l'appariteur, que c'était le sperme de l'appariteur et pas le sperme du donneur. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait vu passer, ce biologiste, dans les couloirs, et elle a dit « c'est lui le père de mon enfant ». Et elle a mis des années avant d'accepter que c'était pas lui, c'était son conjoint, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a que des fantasmes par rapport à ces enjeux biologiques. Il y avait comme ça une mère qui ne couvrait jamais son enfant l'hiver. Il dit, mais pourquoi vous ne le couvrez jamais? Demandez la médecin, elle dit, mais parce qu'il a été cryocongelé à moins de 180 degrés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils craignent le froid ? C'est vous dire que le cheminement vers l'enfant, on peut pas, et c'est du psychique. Et que tant qu'on ne sera pas capable d'élaborer l'impact de la technique sur le psychique, c'est l'enfant qui en fait les frais. Et c'est la même chose pour les gémellités. Oui, peut-être qu'on va chercher ton jumeau d'étuve. Ton quoi ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme de jumeau d'étuve ? Vous ne baignez pas dans la cryoconservation comme moi. Hein, le terme de jumeau d'étuve. Jumeau d'étuve, c'est pour moi une absurdité. C'est la même chose que père biologique. Pour moi, la notion de père biologique n'existe pas. Comme mère biologique. Soit on est mère, soit c'est du bio, mais c'est pas mère bio. C'est l'un est psychique, l'autre est... Donc, jumeau d'étuve, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des embryons qui ont été tous congelés au même moment. Mais ce n'est pas des jumeaux d'étuve. Parce que vous vous en rendez compte, si vous en parlez en termes de jumeaux d'étuve ? Ok, on l'a eu 10 ans après toi, mais c'est ton jumeau. Donc, ça veut dire quoi, ces histoires-là ? Et ça, j'en arrive à un point essentiel, qui est celui de toutes les dissociations, de toutes les dissociations qui seront faites dans les cas d'AMP. Alors, une dissociation, j'en ai déjà parlé dans l'adoption. La dissociation dans l'adoption, c'est quoi ? Vous avez une conception ailleurs et vous avez un couple à un endroit. Donc, la dissociation dans l'adoption, c'est arriver à élaborer cet ailleurs social et biologique et le réassocier au sein d'une scène secondaire, je l'appelle plus primitive. Ça, c'est une première dissociation. L'adoption dans la dissociation dans l'adoption, elle est sociale. Hein, elle est sociale, biologique par conséquence, mais surtout sociale parce qu'il est né ailleurs. Donc, elle est à la fois biologique, à la fois sociale et, voilà. Et puis aussi culturelle parce que... Dans l'AMP, qu'est-ce qu'il y a comme dissociation ? Ben là, on en rajoute une couche. Pourquoi ? On en rajoute une couche pourquoi ? Déjà, vous avez une dissociation, la dissociation la plus marquante, celle qui est la plus évidente, c'est la dissociation entre la sexualité et la procréation. En 70, nous avons rompu ce lien qui existait depuis des millénaires entre la sexualité et la procréation. Et plus que de la sexualité, si je veux dire, du sexuel. C'est-à-dire que les couples infertiles qui avaient recours, enfin qui ont toujours recours à l'AMP, certains n'avaient pas de vie sexuelle. Ce qui pose un problème, parce que pour moi c'était une contre-indication, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vie sexuelle mais vous êtes fertile, ben c'est pas pour vous l'AMP. Ah ouais, mais on ne se touche pas et on veut un enfant, on a beaucoup d'amour à donner. Et vous avez des sécoses qui leur disaient « Ok, très bien, on va vous faire ça pour vous. » Pour nous, psy, c'est une absurdité de valider un AMP pour une infertilité psychique où ils ne peuvent pas se toucher. Vous vous rendez compte de la place de cet enfant dans un couple qui ne se touche pas, qui n'a pas de vie sexuelle ? Et il y en a beaucoup. Hein ? Il y en a qui ne sont pas du tout des fans de Tinder. Donc, il y a plein de couples sans sexualité qui ont été validés par les sécoses. Donc, déjà, c'est une absurdité. Donc, déjà, mettre un enfant dans un couple où il aura du mal à penser une quelconque scène sexuelle à l'origine de sa venue, c'est clair que celui-là, c'est un Arthur en puissance. D'accord ? Donc, la dissociation entre le sexuel et la procréation, c'est une vraie révolution. Parce que la procréation, elle a lieu où ? Elle a lieu, le fameux laborantin qui... victime des tirs projectifs de certaines femmes. La procréation a lieu in vitro. Donc, ça a été une vraie... Vous imaginez au niveau de... Donc, déjà, l'AMP, il va falloir réassocier cette scène-là qui s'est passée sous les yeux d'un laborantin, voir c'est lui qui a mis la pipette dans l'ovocyte et tout, injecté le sperme à l'intérieur. Et bien, il va falloir se dire, bon, ça s'est passé dans le labo, mais ok, on va faire comme si ça s'était... C'est vachement dur au niveau psychique. Et quand je dis si leur fiction psychique est dépassée par le biologique, ils ne pourront pas faire comme si c'était les parents. Si cette femme, elle a toujours en tête la pariteur et pas son mari, ça va poser un problème. Donc, ça, c'est une dissociation complexe. Et déjà ça, en tant que tel, même pour les FIV, donc juste pour une fécondation in vitro, un couple infertile, pas compliqué. On leur dit, on va vous faire une FIV, c'est-à-dire on va faire une conception sous le microscope, avec votre sperme, votre ovocyte. On prend l'embryon et on vous le réinjecte. fait que ça, rien que ça, certains couples ne s'en remettent pas. Il faut le savoir. Donc déjà ça, la FIV de base, la FIV vraiment le modèle de base, tout le monde écolo, sous la, le couple, pas le sperme, tout ça familial, certains couples ne s'en sortent pas avec cette FIV. Elle dit, je le sens pas ce bébé. Ce bébé, c'est pas mon bébé. Il faut que nous, professionnels, on puisse entendre ça. J'ai du mal à le toucher. J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le soutenir. C'est-à-dire, vous voyez comment ces interactions, c'est-à-dire tous ces enjeux dont je vous parle, de l'héritage, de l'intergénérationnel, etc., tout ça, ça se traduit dans des actes auprès du bébé. Une mère qui ne peut pas le voir, une mère qui ne l'entend pas crier, une mère qui ne peut pas le bercer. Tout ça, c'est toute cette histoire transgénérationnelle et le cheminement vers l'enfant se voit dans les interactions précoces. Ça passe pas par le, ça passe par le physique et le psychique et l'émotionnel et les mots qui sont dits, pas dits. Une femme qui arrive mal à porter son enfant parce que elle pense que cette fille, c'est ça vient d'ailleurs. C'est bien sûr que ça existe. Donc, vous voyez déjà cette simple dissociation, et puis sans parler de la dissociation biologico-historique par rapport au couple. De ces couples qui vont faire des fives alors qu'ils ne se parlent plus et qu'ils se font la gueule. Eh ouais, mais ça fait 4 mois. Ben ouais, mais 4 mois, je ne te supporte plus. Oui, mais on avait pris le rendez-vous, c'est 4 mois que doit faire la five, tu ne peux pas me dire non. Ouais, mais tu me fais chier. Et il y a des couples, il y a des femmes qui vont faire la five alors qu'au niveau du couple, c'est évident qu'ils n'auraient pas couché ensemble. Mais voilà, le labo dit, et le médecin dit à l'homme, mais vous ne pouvez pas faire un truc pareil, vous plaisantez, il faut à tout prix la faire. Et vous avez l'homme qui s'entend dire par le médecin qu'il faut qu'il fasse cette conception. Donc vous vous rendez compte comment le tiers scientifique modifie toutes les représentations par rapport au cheminement vers l'enfant, y compris dans des histoires de couple. Et moi j'ai vu un père qui s'est fait engueuler par le médecin alors qu'il avait pressenti que, avec cette femme-là, ça n'allait pas le faire. Et l'histoire lui a donné pleinement raison, vu que c'est dans le cadre d'une expertise. Et c'est fou d'ailleurs dans les expertises. C'est une expertise JAF pourtant. Mais c'est une expertise JAF tellement grave qu'elle a fini chez le juge pour enfants. Donc en gros, pour ceux qui ne sont pas... Les expertises JAF, c'est que l'histoire de conflits, séparation, etc. Entre guillemets, c'est l'histoire facile. Mais maintenant, les conflits de séparation sont tellement violents, sont tellement importants qu'elles arrivent chez le JE. Et là, c'est une expertise JAF qui a fini chez le JE. Et je demande toujours sur l'histoire de la conception, etc. Voilà, c'était une conception avec son sperme, ses ovocytes, etc. Mais ça faisait depuis 4 mois qu'il avait pressenti que sa femme était en train de vriller, qu'il n'allait pas, etc. On parle très souvent des perversions narcissiques chez les hommes. Alors, quand il y en a une chez les femmes, elle était redoutable. C'est-à-dire qu'elle était tellement redoutable, elle, que la JAF lui a supprimé l'autorité parentale partiellement pour qu'une femme se fasse supprimer l'autorité parentale, il fallait vraiment qu'elle soit, enfin, que ce soit vraiment visible, quoi. Ben, elle a réussi ça, mais elle était redoutable, cette femme-là. Enfin, alors là, il se trouve qu'elle s'est vraiment tellement cramée que ce qui l'a cramée, c'est quand elle a mis les photos de son ex-mari nu sur le chemin de l'école des enfants, pour dire à quel point ce père était exhibitionniste. Alors ça l'a cramée. Ça l'a cramé. Ça, la JAF, elle s'est dit, moi, j'ai peut-être pas besoin d'expert psy pour voir que ça va pas. Mais là, voilà, elle est allée trop loin, mais elle se pensait inattaquable. Enfin bon, quand c'est une femme, on y pense moins parce que tout le monde se dit, mais non, c'est une mère, etc. Il faut y penser aussi bien chez les femmes que chez les hommes. La perversion narcissique. Enfin, pour moi, la meilleure définition de la perversion narcissique, c'est celle de Temple Grandin. Non, pas Temple Grandin. Comment elle s'appelle ? Gardin. Blanche Gardin. Blanche Gardin. Maintenant, à chaque fois qu'un homme vous plaque, c'est un pervers narcissique. C'est excellent. C'est la plus politiquement incorrecte de toutes, Blanche Gardin. Elle s'est mis les féministes à dos. Elle s'est mis tout le monde à dos, Blanche Gardin. Alors, donc voilà. Donc, au niveau des dissociations. Donc déjà, vous avez dissociation de la procréation et la sexualité. Et donc, ça veut dire que vous avez une dissociation entre la procréation et le plaisir, ce qui n'est pas rien. Pour ceux qui ont suivi des femmes, qui ont fait ces parcours de FIV, je vous garantis que ce n'était pas une partie de plaisir. Par rapport à l'histoire des galipettes partout, pendant la lune de miel et compagnie, et des conceptions très rigolotes, là, vous avez une dissociation du plaisir et de la procréation. Ce qui n'est pas sans incidence. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il y avait le septième ciel pendant la création de l'enfant. Mais quand même, ce n'est pas la même histoire. Peu de sexualité ou pas de sexualité ou pas une partie de plaisir et l'arrivée de l'enfant. C'est pour ça que s'ils ne font pas les deux, c'est compliqué de dissocier totalement la sexualité, le plaisir et la création de l'enfant. Et ça fait partie du cheminement. Alors, ça fait partie du cheminement inconscient parce que bien souvent, les parents ne s'en souviennent plus. Et vous aurez rarement des parents qui vous diront « Ah ouais, je m'en souviens, on était complètement bourrés ce soir-là. » Non, on ne s'en souvient pas, mais quand même. Par rapport au climat glacé d'une procréation par FIV en laboratoire, ce n'est pas la même ambiance. Et pourtant, ça fait partie du cheminement vers l'enfant. Nous, quand les gens viennent nous voir avec les gosses, on reprend ce cheminement. Donc on voit à quel point ça peut être douloureux pour ces femmes. Et on voit comment a été leur conjoint par rapport à ça. Est-ce que c'était, bon, c'est ton histoire après tout, c'est ton gosse, ou bien est-ce qu'ils ont partagé ça ensemble? Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, dissociation du plaisir et de la procréation, dissociation de la procréation par la maîtrise totale de la conception, c'est-à-dire le désir est totalement encadré. Comme dirait Monique Biblowski, c'est devenu une absence de... on arrête de ne plus vouloir un enfant. Et tout à coup, on le programme. Donc c'est vrai que le poids de la programmation de cet enfant, avec ce que ça implique par rapport au parcours de l'infertilité, de savoir qui est infertile, et je vous garantis, ce n'est pas la même chose, une infertilité de la femme, d'une infertilité de l'homme. L'infertilité de l'homme, elle est extrêmement mal vécue. Si vous dites, non, c'est... vous insistez. Parce que c'est archi mal vécu, l'infertilité. D'abord, il y a cette confusion chez les hommes entre infertilité et impuissance. Ils le font, le lapsus. Ouais, on m'a fait le bilan, j'étais impuissant. Non, j'étais infertile. Ils le font, le lapsus. Un homme pas capable d'avoir des gosses, je vous garantis que par rapport à son père, par rapport à son grand-père, la filiation paternelle, elle en prend un coup. Donc ça, ça a un poids psychique. T'es même pas foutu de faire des gosses. T'as dû faire appel à un donneur. Merci le donneur, j'espère que tu le remercies tous les jours. Hein? C'est-à-dire, on a ces discours-là. C'est pour ça que ces histoires sont intergénérationnelles. Toujours, toujours. Et c'est pour ça que lorsque l'homme a du mal à transformer, parce qu'en fait, pour moi, la meilleure histoire de transformation, c'est celle que m'a racontée une femme, c'est son enfant avait, elle devait avoir 4-5 ans. Et alors maman, comment on fait les enfants? Ben voilà, l'homme et la femme, la graine, le ventre, etc. Et tout. Et moi j'étais dans ton ventre? Oui, j'étais dans ton ventre. Tu étais dans mon ventre, oui, mais... Et là la mère se lance. Mais la, voilà, la graine de... Donc il y avait la graine de maman et la graine de papa, mais la graine de papa, on nous l'avait donnée. Ah bon? Première réflexion du gosse, donc papa n'est pas mon papa? Le réflexe bio des gosses, étonnant. Pas étonnant que ça donne. Et papa n'est pas mon papa. Et à ce moment-là, la mère, qui n'était pas psy pourtant, lui dit, tu en es sûr? Et à ce moment-là, la gosse dit, attends. Quelqu'un a donné la graine à papa? Oui. Donc, c'est la graine de papa? Oui. Donc, c'est mon papa. Et voyez cette histoire de transformation. C'est-à-dire, elle est, voilà, elle fait comme si. Alors, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Éloge du secret, où j'ai tout un chapitre sur cette transformation. C'est-à-dire, comment un enfant se réapproprie cette histoire de graine. Et en fait, c'est essentiel de se réapproprier cette histoire de graine. Si vous ne faites pas ce mécanisme psychique, à ce moment-là, de l'étranger reste étranger. Et en gros, c'est comme ce que je vous disais au début de la conférence, tout bébé est un iti dans une famille. Tout. On doit tous, tout ce mécanisme de transformation de iti en familier, tout le monde doit le faire. D'accord? Même chose pour les graines. Ok, il vous a donné la graine, donc c'est papa. Il y a une histoire bouleversante. Bon, il y a deux histoires à ce propos-là. Il y a d'abord l'histoire d'un grand philosophe qui a écrit un livre là-dessus, pas sur un don de sperme, mais sur sa greffe cardiaque. D'accord? Ça s'appelle l'intrus. Sure, bah, il se trouve que pendant 7 ans, j'ai travaillé à l'agence de biomédecine. On l'a pas dit au début. Bon, l'agence de biomédecine, c'est on s'occupait de tout ce qui était greffe, cardiaque, hépatique, don de sperme, don d'ovocytes, etc. Donc pendant... Voilà, donc c'est un sujet... Et quand j'ai commencé à bosser sur la greffe cardiaque, avant même de connaître l'histoire de l'intrus, donc l'intrus, c'est... donc il raconte dans son livre comment ce... En gros, vous connaissez un peu en France les lois, mais en France les lois par rapport à la greffe cardiaque sont très simples. D'abord, le donneur doit être mort.
C'est appréciable.
Ça peut sembler évident, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas le cas dans le don du rein. D'accord ? Dans le don cardiaque, vous ne pouvez pas le donner de votre vivant. Et donc, ça veut dire quoi ? Vous avez une pathologie cardiaque, vous attendez une greffe. Pendant tout le temps que vous attendez une greffe, vous avez quoi dans votre tête ? Voilà. Donc vous regardez les statistiques sur la route, les jeunes, les trucs. Mais non, rouler sans casque, c'est une très bonne idée. Allez-y. À chaque fois que je vois un type sans faire le con en deux rouges, ok, futur donneur d'organes, très bien. Et donc déjà, ça veut dire que vous êtes habité de vœux de mort pour votre prochain, ce qui n'est pas évident. Okay ? Mais ça, il faut savoir, la deuxième chose, c'est qu'en France, le don est anonyme. J'attends Arthur sur ce coup. On attend, parce que s'ils l'ont levé pour le sperme, mais pourquoi on le lève pour les... Pourquoi on le lèverait pas pour le donneur cardiaque ? Vous savez pourquoi on le lève pas pour le donneur cardiaque ? Pourtant, il a beaucoup d'amour à donner. Enfin bon, on pourrait avoir un discours sociologique, mais non, au nom de la vérité, au nom de la transparence, il a le droit de savoir ses origines. En fait, c'est hyper important de ne pas savoir. Donc c'est pour ça que je fais l'éloge du secret, parfois pour l'importance de ne pas savoir. Alors, il se trouve que dans ce livre, il raconte comment c'était très important de ne pas savoir qui c'était. Pourquoi ? Parce que le don, quand il a reçu cette greffe cardiaque, qui l'a remercié dans sa tête ? À qui il a payé cette dette ? Au social. D'accord ? C'est le social qui lui a donné ce cœur. C'est envers le social qu'il a cette dette. Donc pour lui, toute l'humanité... Il est redevable à toute l'humanité de lui avoir apporté. Ce n'est pas un don dirigé. Ce n'est pas un don, voilà, à toi je dois ma vie et pour ça j'ai voulu que tu meures. Ça a été élaboré par le social. Et c'est extrêmement important que ce soit élaboré et que nous, le social, nous, le tiers social, médical, juridique, on ait été un intermédiaire entre cet homme mort et cet homme. Vous avez vu 18 grammes ? Bon, je ne vous dis pas votre programme cinématographique à la sortie de... D'accord ? 18 grammes, qui est un film de... J'ai oublié son nom. Ouais. Non, c'est Iñárritu. Voilà. Donc, un film. Bon, d'abord, j'adore ce cinéaste, mais là, 18 grammes, c'est prodigieux. Et en fait... Bon, je ne vais pas vous spoiler 18 grammes, mais je vais vous spoiler une autre histoire, qui est en fait une vraie histoire que j'avais entendue avant même d'être à l'agence de biomédecine, d'ailleurs. C'est l'histoire, ça se passe au Canada. C'est un homme qui reçoit une greffe cardiaque. Donc, et en fait, dans le monde entier, vous avez cette histoire d'anonymat. D'accord ? Dans le monde entier. Donc, cette histoire d'anonymat, on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il vaut mieux ne pas savoir. Et donc, voilà, un Canadien reçoit une greffe cardiaque. Il faut savoir que quand vous recevez une greffe cardiaque, vous avez un traitement à vie d'immunosuppresseur. Parce que même si vous avez un rapprochement au niveau du groupe tissulaire, il faut quand même vous limiter votre réaction immunitaire. Donc on vous donne un traitement à vie pour déprimer votre immunité. Mais bon, on s'en sort, enfin, il y a un bon pronostic de vie des greffes cardiaques. Donc lui, il a reçu une greffe cardiaque, première année, ça se passe bien. Quand vous passez le cap de la première année, c'est déjà très très bon pour la suite. Et un an et quelques mois plus tard, on frappe à sa porte, il ouvre, vient une femme. Une femme lui dit... On a fait la commémoration de la mort de mon mari et vous avez son cœur. Je voulais juste vous signaler la messe. Et elle lui donne le truc. OK ? Donc, qu'est-ce qu'elle avait fait, cette femme-là ? Cette femme-là avait violé la loi. C'est ça, pour moi, l'importance de la loi. Elle avait violé la loi. Elle avait embauché un détective privé pour savoir qui avait reçu le cœur de son mari. En gros, enfin, je ne vais pas vous dire comment il faut faire, mais ce n'est pas compliqué de le faire. Il n'y a pas 36 avions qui décollent à 3h du matin pour aller ailleurs. Enfin bon, c'est pas impossible de faire cette enquête. Elle a payé quelqu'un. Le détective est quand même allé dans les archives de l'hôpital pour, là encore, violer... Non, pour moi, fraude omnia corrompit, c'est-à-dire la fraude corrompt tout. C'est-à-dire tout a été violé au niveau de la loi. Donc au niveau de la protection de l'individu. Elle a retrouvé l'adresse, elle lui donne le truc. À ce moment-là, lui, il a mis un visage. Il a mis un visage, il a personnifié le don, il a personnifié l'histoire, il a personnifié tout ça. À partir de là, il a commencé un mécanisme de rejet. C'est-à-dire, merci le psychosomatique. Enfin, merci, je ne remercie pas le psychosomatique, mais voilà ce que c'est que le psychosomatique. Et ce rejet, on n'a pas pu en venir à bout avec les immunosuppresseurs. Et à ce moment-là, l'équipe de greffe lui dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est de vous regreffer un cœur. Et l'homme dit, non, j'ai déjà eu ma chance, donnez-la à un autre. D'accord ? Donc, vraiment, donc ces histoires d'anonymat, oui, c'est important. Bien sûr que c'est important. Cette histoire de dette, c'est important. Cette histoire de cheminement, c'est important. Et cette histoire de dissociation. Donc les dissociations, je n'ai pas fini dans les dissociations. Il y a les dissociations temporelles. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant qui a été conçu au même moment au laboratoire et qui arrivera 4-5 ans après? Et qu'est-ce que l'on dit aux parents? Là, il vous en reste 4. On les met à la poubelle ou pas? Au début, ils disaient ça. Ensuite, ils ont arrêté avec ce vocabulaire stupide. Mais qu'est-ce qu'on fait de vos 4 embryons qui restent dans le frigo, là? Vous les donnez à la recherche ou vous les donnez à des parents qui n'ont pas d'enfants? Et les chercheurs ont créé actuellement dans les congélateurs de cryoconservation près de 50 000 embryons en attente de projet parental. Création des chercheurs. C'est vous dire. Donc qu'est-ce que vous allez dire comme histoire de ces dons d'embryons? Ah oui, tu as été conçu, mais en fait, au bout d'un moment, ils avaient suffisamment d'enfants, et toi, ouais, tu crains pas le froid, non? Voilà, 50 000. Et on ne sait pas quoi en faire. Alors, il y a quelques dons d'embryons, mais c'est compliqué, un don d'embryons, au niveau psychique, de raconter une histoire qu'il a été créé dans un couple, puis le couple n'en a plus voulu, parce que ça y est, ils en avaient déjà 3, il est resté, on t'a récupéré. On a tellement d'amour à te donner. D'accord, ces histoires, en fait, c'est ce que nous, on récupère. D'accord, c'est ce que nous, on récupère. Et au niveau de la dissociation, elle est compliquée au niveau de recréer une scène comme si on t'avait fait. Certains vont y arriver, mais d'autres ne vont pas y arriver. Dissociation de la temporalité, conservation illimitée, ICES Children. Dissociation de la sexualité, ça je vous en ai déjà parlé, enfant de la science. Dissociation de la filiation biologique et du psychique, donc gamètes anonymes. Dissociation de l'accouchement avec les mères porteuses. Et dissociation des gamètes et de la sexualisation. Bon, et là encore, je suis gentil, je ne vous ai pas rentré dans les cas compliqués. Les cas compliqués, c'est le cas qui vient d'arriver à la Cour de cassation, mais que moi, j'avais déjà discuté, lorsque c'était le cas à Bordeaux, de la personne qui a donné son sperme à sa femme, qui a changé de sexe et qui veut maintenant être appelée la mère de l'enfant. Oui. Vous avez suivi ou je la fais? Si, c'est pas mal. Parce que d'habitude, les gens... Donc, c'est un homme qui est femme, le sperme... Donc, actuellement, pour l'instant, le projet a été refusé, mais avec le comité d'éthique que l'on a et la pensée que l'on a actuellement, au nom de quoi vous voulez refuser ça? Écoutez, moi j'étais un homme quand j'ai voulu avoir un enfant, j'ai beaucoup d'amour à donner, maintenant je me suis transformé en femme, j'ai inséminé ma future femme, donc au nom de quoi je ne pourrais pas être sa nouvelle mère?
Kafkaïa.
Allez-y, trouvez des mots repères. Pour moi, les repères sont clairs, hein. c'est pas une fiction crédible. On ne peut pas renoncer à un sexe et vouloir le beurre et l'argent du beurre, ça y est, tu as renoncé à ton sexe, ok, tu deviens une femme, tu deviens une femme. Tu ne peux pas à la fois conserver les avantages de l'homme tout en ceci, c'est-à-dire... En gros, à quoi en tant que parent on doit renoncer pour être parent? Parce que c'est ça une dette oedipienne. Une dette oedipienne, c'est une dette de limite. Je vais m'empêcher de sacrifier l'enfant. Pour moi, en gros, parmi les images marquantes de tout ça, c'est lorsque, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, le fait qu'Abraham n'ait pas tué son fils. Un père, ça se retient. Ça s'empêche, comme dirait l'autre. Donc oui, on ne va pas... sacrifier nos enfants à notre toute-puissance. Mais notre toute-puissance, ça peut être aussi le fait de vouloir des choses disproportionnées pour l'enfant, le fait de l'instrumentaliser dans un conflit, tout ça, c'est de la toute-puissance. Donc oui, un parent, c'est celui qui s'empêche. Quand on part en boîte de nuit, on ne va pas attacher les enfants au barreau du lit. C'est ce qu'ont fait des parents qui étaient de classe sociale supérieure. Ils ont attaché leur enfant au barreau du lit. Je dis, mais, bah ouais, on voulait aller en boîte. Je dis, mais comment on peut attacher des enfants à des barreaux? Mais ça, une fois de plus, il faut le... Et c'était une classe CSP++, qu'on arrête de dire la maltraitance, ce sont les gens de conditions socio-économiques basses. Non, j'ai vu ça dans des hôtels particuliers. Donc oui, c'est un parent, c'est renoncer à quelque chose de soi-même pour privilégier un narcissisme qui porte l'enfant. Et c'est pour ça que j'oppose les enjeux narcissiques qui portent l'enfant de l'enfant qui doit supporter le narcissisme parental et qui doit en payer le prix. Donc oui, c'est quelque chose qu'on s'empêche. Donc, tous ces enjeux de dissociation vont faire que oui, quand les transgressions sont valorisées par rapport à l'enfant, les enfants issus de GPA, ça serait une transgression par rapport aux lois du pays. Pour moi, ce qu'a fait la France par rapport à la GPA en autorisant la retranscription sur le registre d'état civil, alors même que la loi a été violée, c'est une dissociation juridico-éthico, ce que vous voulez. La France interdit la GPA sur son sol national, mais accepte la reconnaissance sur les registres d'état civil. Ok, alors c'est totalement interdit, mais si vous le faites, ben ouais, c'est bon, on va le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien ? On fait rien ? Ah, ce sont des fantômes de la République. Ben, c'est vous qui avez voulu un fantôme. C'est très mignon, un petit fantôme. Moi, j'adore les fantômes. En plus, ce ne sont pas des fantômes. Ils ont un état civil à l'étranger. Et ils ont un état civil en France en tant qu'étranger. Donc, c'est-à-dire, si je suis aussi virulent par rapport au militantisme procréatique, c'est que pour moi, ce sont les enfants qui en font les frais. Et instrumentaliser les enfants, mettre la France devant les faits accomplis et dire « Ah ben maintenant, reconnaissez-le parce que ce sont des fantômes de la République, ils sont tellement mignons, ces petits-enfants. » Non. Pour moi, c'est un vrai scandale. Et le fait que la France cède là-dessus, on met ses enfants dans une double position. À la fois, la loi est importante et à la fois, la loi n'est pas importante. C'est exactement la même chose lorsque on ne sanctionne pas les couples maltraitants. Pour moi, c'est la même chose. Et pire, lorsque les couples maltraitants touchent l'argent des enfants que les enfants ont eu grâce au procès et que les parents vont récupérer l'argent qu'ils ont eu grâce à la maltraitance de leur gosse. Je parle chinois ou il y en a qui ont compris ce que j'ai dit ? Parce qu'en gros, tout ce que je viens de dire, je l'ai vu à 10 reprises. 10 reprises. Parce que le conflit de loyauté par rapport aux enfants maltraitants qui n'osent pas se séparer des parents qui les ont barbarisés, on l'a tout le temps. Mais là, c'est la même chose. On interdit la GPA, mais ouais, on va faire la reconnaissance. Ils sont tellement mignons, ces enfants. Puis vous avez tellement d'amour à donner, c'est exceptionnel. D'accord ? Bon, vous avez bien compris que par rapport à l'amour, je suis un peu... Hein. Il nous reste plus qu'un quart d'heure. Alors, le cheminement par rapport...
C'est pas le couple qui va devoir le faire, c'est l'enfant. Ben, c'est la dette.
En tout cas, enfin, tout ce que je vous ai dit maintenant, vous pouvez l'appliquer quasiment à tous les cas cliniques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Deux hommes, qu'est-ce qui se passe ? Alors, deux hommes, c'est compliqué, c'est par rapport à... Enfin, ensuite, pour moi, je différencie les enjeux filiatifs. Alors, déjà, les enjeux filiatifs, je les ai un peu différenciés par rapport à ce qu'il en est de est-ce que les parents sont au même niveau ou pas, parce que c'est pas la même chose pour moi d'avoir un père et le copain du père ou une mère et la copine de la mère d'avoir deux parents. D'abord parce que deux parents, ça indifférencie les statuts, et en fait on peut pas indifférencier les statuts. La notion de père et de mère est importante pour moi. Les couples justement qui s'en sont le mieux sortis d'un point de vue filiatif sont ceux qui n'ont pas appliqué la loi de 2013 sur l'adoption des couples de même sexe, qui ont adopté, qui l'enfant a un père, puis il a l'ami du père. À ce moment-là, filiativement, les enfants s'en sortent. Maintenant, ce qu'il devra affronter, c'est le fait qu'il n'a pas eu la complémentarité par rapport à ses interactions précoces. Ça, oui. Donc, au niveau de ses interactions précoces, ses enfants seront différenciés des autres. Donc, la question, c'est est-ce que... est-ce qu'on fait comme si cette différenciation n'existait pas ? Non, mais il faut le savoir que cette différenciation, ils ne l'ont pas eue. Aussi bien dans les couples d'hommes que dans les couples de femmes. Mais je différencie ce registre éducatif qui fait que d'une façon éducative, on n'a pas été confronté à deux registres qui sont pourtant complémentaires, qu'au niveau législatif, au niveau filiatif, mettre ces enfants dans une situation d'impossibilité originaire. C'est pour ça que dans un cas, ça sera plus compliqué, donc il faut le savoir, mais je suis plein de cas d'enfants bon, qui vont arriver, parfois c'est plus de mal. Mais pourquoi ils ont plus de mal? Tout dépend comment ils sont investis par ces deux femmes ou par ces deux hommes. Est-ce qu'ils sont investis d'une façon narcissique? Ou est-ce qu'ils sont investis d'une façon oedipienne? Et comme très souvent, justement, le choix de l'autre vient dans une identification contre-oedipienne, l'enfant fera la suite de cette histoire-là. Mais pour qu'il fasse la suite de cette histoire-là, il va falloir que les parents lui en parlent. Et en fait, ça, c'est compliqué. Parce que ce que l'on fait dans ces couples que l'on suit, ils arrivent à nous parler de pourquoi ils ont fait ce choix. En tout cas, c'est important qu'ils arrivent à comprendre pourquoi ils ont supprimé la mère pour cet enfant ou pourquoi ils ont supprimé le père pour cet enfant. Et ça, c'est important à dire.
Oui, mais
aussi
là, c'est...
bien pour les couples d'hommes que pour les couples de femmes, que pour les femmes seules. Et on travaille pendant des mois cette question de qu'est-ce qui fait de mon histoire, j'ai voulu que tu n'aies pas de père ou j'ai voulu que tu n'aies pas de mère. Parce que ça, ça fait partie du cheminement vers l'enfant. Et ça, c'est essentiel. Donc, une fois de plus, c'est une clinique qui est spécifique parce qu'on met l'enfant dans une situation particulière. Mais qu'est-ce qu'on lui en dit? Et si c'est « mais je voulais un enfant, j'ai beaucoup d'amour, j'ai un désir », ça ne suffit pas. Il faut que l'enfant comprenne qu'est-ce qui fait que il a été mis dans cette situation-là et il est arrivé dans cette histoire-là. Et que très souvent, parfois, dans ces enfants sont mis dans ces coups. Enfin, là, une fois de plus, je différencie, là encore, les couples militants purs et durs, des couples qui s'interrogent et qui viennent nous consulter. Pour nous, ce n'est pas les mêmes couples. Pour nous, ceux qu'on voit à la télé, qui sont très militants, très « je fais partie de telle association », etc., leurs enfants vont bien, et puis voilà, ils ne se posent pas de questions. Ceux qui viennent nous consulter, ils voient bien que c'est plus complexe. Et à ce moment-là, nous, on fait avec eux ce qui les a mis dans cette position-là, de façon à pouvoir... répondre à cette conflictualité que traverse l'enfant, y compris à cette agressivité que peut avoir cet enfant. Il y avait comme ça ce couple de femmes qui en poussette évitait toutes les statues d'hommes. Je dis pourquoi ? Mais parce que je veux pas qu'il me... On veut pas. C'est trop compliqué. Et nous, de reprendre peu à peu, voilà. Donc ça, ces questions, on les travaille avec ces couples-là et avec ces femmes-là, ou avec ces hommes-là.
Ce qui n'empêche que c'est surtout l'enfant qui va avoir un cheminement psychique à faire. Parce que là, vous nous décrivez principalement ce que vous faites vis-à-vis du couple pour que, justement, d'accord, c'est la première phase, mais après, l'enfant va grandir. Il y a déjà des expériences avec des enfants qui vous permettent de nous expliquer le cheminement symbolique qu'un enfant issu de deux hommes ou de deux femmes doit faire quant à lui pour refaire cette situation symbolique de sa naissance, en quelque sorte.
C'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il doit justement élaborer ce qu'il a été d'une mise en acte parentale. Oui. Donc c'est pour ça que la mise en acte parentale par rapport à la venue d'un enfant, c'est une scène que l'on doit toujours interroger. Et en fait, c'est cette scène qui a des origines parfois traumatiques, parce que c'est pas n'importe quoi de faire comme choix d'objet un choix d'objet de même sexe par rapport à l'arrivée d'un enfant. Donc ce choix d'objet et cette conflictualité-là, à la fois on essaye de l'interroger par rapport aux parents, et le boulot en thérapie de l'enfant, ça va être de se positionner par rapport à ça. Et de se positionner par rapport à ça, c'est-à-dire d'essayer de quitter le registre parfois identitaire que se sont donné les parents. Parce qu'en fait, ce qui complique énormément ces questions-là, c'est les questions actuelles par rapport au genre, par rapport à l'identité, l'homosexualité, tout cela. Alors que nous, en tant que psy, on ne raisonne pas d'une façon identitaire. Et quand on a des patients ou des familles qui raisonnent d'un point de vue « ma sexualité me donne mon identité et c'est par rapport à ça où j'ai mon droit », nous, on essaie de Nous, on sait que l'identité, c'est quelque chose qui peut obscurcir la position du père et de la mère. Et à ce moment-là, on essaie de restaurer ce cheminement de façon à aussi aider l'enfant d'avoir un cheminement en dehors de fixation identitaire. Sans ça, il se trouve dans un champ, si je puis dire, sans domicile filiatif, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir à se transformer en fils et fille ou à transformer le père en père ou la mère en mère, on sait que pour le coup, il peut y avoir un risque de dérive identitaire. Donc voilà un peu les conséquences de tout ça, c'est-à-dire il peut bien sûr...
Ça ne va pas être aussi simple que ça.
Ben non, c'est pas
ça
aussi simple.
Ça ne va pas être aussi simple.
Parce qu'il est confronté à un double registre d'Oedipien qui a fait qu'il y a eu éviction de l'autre.
Mais il y a eu éviction de l'autre.
Donc, au lieu d'aborder une simple conflictualité oedipienne, il doit arriver à avoir une double conflictualité oedipienne qui s'est raisonnée, qui s'est conclu par un choix d'objet identique, la pensée par rapport à la différence des sexes et le lien entre la différence des sexes et la procréation, ça va être un cheminement qui va devoir l'aider à conflictualiser. C'est pour ça que l'enfant est toujours confronté aux névroses parentales, tout le temps. Le tout, c'est que le poids que l'on doit faire payer à l'enfant,
là, oui, il a une sacrée
dette.
Il ne
doit pas être trop élevé. Voilà. Pour nous, c'est une question de valise. En gros, les valises, déjà à la base, c'est compliqué.
Oui.
Donc, on peut les charger, voilà, on doit le rendre névrosé, mais sans plus. C'est pour ça que c'est, pour moi, que la société prenne position par rapport à ces enjeux, par rapport à ce qu'il en est de l'enfant. Là, pour le coup, elle est allée très loin, et en particulier avec les lois à venir sur l'AMP, où là, aucun des risques dont je vous ai parlé n'ont été pris en compte. Et pourtant, pas faute de leur avoir dit. Voilà.
Merci infiniment. On n'a pas eu le temps de poser des questions, mais ça fait rien parce que je ne peux pas vous interrompre. Bon, bah merci infiniment. Alors, une ou deux questions, mais pas plus, malheureusement, parce que le temps nous est compté, comme on dit bêtement. On est loin de
Bonjour.
Donner de l'amour, va suffire.
Et merci pour cette conférence. Je suis éducatrice spécialisée dans un lieu de vie qui accueille des mères-enfants et j'ai une question à vous poser. Quand vous dites qu'il n'y a pas de père biologique, j'ai une jeune mère qui est tombée enceinte à 13 ans de son frère. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Elle n'a pas encore discuté avec son fils de qui était son père. Mais son père, son frère à cette jeune fille n'est pas le père de cet enfant, mais par contre, c'est son père biologique.
Bon, alors, je ne vais pas refaire toute ma conférence, mais en gros, la notion de père et de biologie, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas toujours... Faut pas la superposer. D'abord parce que, quand je vous ai parlé des trois piliers, psychique, juridique et biologique, parfois c'est en adéquation et parfois ça ne l'est pas. Et parfois, si vous avez une adéquation, et si elle est incestueuse, c'est déstructurant psychiquement. Pourquoi actuellement vous n'avez pas de reconnaissance d'inceste par le père et par la fille? Parce qu'on considère que c'est déstructurant psychiquement d'avoir une reconnaissance juridique, c'est-à-dire au pilier juridique, et du père et de la fille par rapport à l'inceste. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous utilisez le terme de père, c'est contradictoire par rapport à ce qu'il en est justement de la construction psychique de l'enfant.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire à son fils quand il va lui demander qui est mon père? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir répondre? Au niveau de la loi, son frère ne peut pas être le père. Mais à 18 ans, quand elle aura 18 ans, si elle veut être amoureuse de son frère, il paraît qu'ils ont le droit, une fois qu'ils sont majeurs. Bon, bref, mais ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'elle va dire à son fils quand il va lui poser la question de qui est mon père?
Il faut différencier. Tu n'as pas de père. Tu es un géniteur, mais tu n'as pas de père. Pour moi, la question du géniteur...
Pardon, excusez-moi. Je différencie la question du géniteur de la question du père. Pour moi, un père, c'est du psychique, une pensée de père, c'est-à-dire, c'est tout ce que je vous ai dit par rapport à ce cheminement et tout. Un passage à l'acte de, violence sur mineur, c'est pas un père, c'est autre chose. Donc oui, c'est un géniteur. Parce qu'on ne va pas la rendre folle, cet enfant, c'est un géniteur, mais justement, ce n'est pas un père. Et qu'est-ce que c'est un père? Un père, c'est justement, c'est pas l'interdit. Il y a des interdits, il y a des transgressions, et oui, il y a une transgression. Donc, bien sûr que ce n'est pas un père. Si vous le parentalisez là, vous allez mettre cet enfant dans une situation de valider psychiquement un inceste. Donc, ça a été interdit juridiquement, et la loi, jusque-là, elle est bonne. Vous n'allez pas vous valider une inadéquation, vous n'allez pas fragiliser le psychique en disant c'est un inceste, le problème c'est ton père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important dans ce cheminement de voir que oui, il y a eu quelque chose, c'est un géniteur, mais ça n'est pas un père, et voilà pourquoi ça n'est pas un père.
C'est important de comprendre que la position de père, ce n'est pas le bio qui le fait. Mais c'est comme, vous savez, les paternités imposées, c'est-à-dire ces femmes qui vont aller chercher par la peau des fesses un homme en disant, ben voilà, on a couché, machin, t'es le père. Et le père qui parfois, ah, je vais le père, et ben tu vas voir ce que c'est qu'un père. Et qui viole l'enfant régulièrement. J'ai vu des cas, mais dramatiques, avec des hommes qu'on est allé chercher par la peau des fesses pour être le père. Non, le père, ce n'est pas le biologique. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Ou alors un père de papier juste pour faire l'échec et l'argent. Non, un père, ce n'est pas ça. Hein, c'est pour ça que la loi qui nous dit, bah déjà, on peut se passer de père, c'est n'importe quoi, parce que c'est valider une éradication. Et non, un père, ce n'est pas du bio. Ça peut être du bio, mais ça ne suffit pas. En fait, le lien biologique n'est ni nécessaire, ni suffisant pour être père. C'est pour ça que pour moi, quand il y a des expertises avec l'ADN, etc., c'est une catastrophe. Googlez l'affaire Mandé vs France. Ok, l'affaire Mandé vs France, c'est un enfant qui est allé sur la Cour européenne des droits de l'homme et puis qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour destituer l'amant de sa mère qui a cassé sa filiation avec son père. Je le redis, vous avez compris. Eh bien, il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme a donné tort à cet enfant et lui a dit non, ton père, c'est l'amant, c'est le bio. Ok ? Et pour me remonter le moral, je lis l'opinion dissidente du président du tribunal qui explique pourquoi le père, c'est pas du biologique. C'était la présidente du tribunal, la majorité a donné raison, donc voilà. Mais elle a publié son opinion dissidente. Et quand je suis un peu déprimé par rapport au lien biologique, je relis l'opinion dissidente du juge Nussberger. Vous allez me dire, mais il a vraiment que ça à faire, lui. Et en fait, voilà, ça explique pourquoi le bio, c'est pas le père. Mais dans toutes ces histoires, enfin, dans mon bouquin, j'ai donné un exemple, mais en fait, ça arrive tout le temps, de cet homme qui a fait une reconnaissance de paternité, puis la mère a abandonné l'enfant, et ensuite il a attaqué la famille adoptante pour récupérer le gosse, etc. Et la justice a dit, oh, c'est tellement merveilleux, ce père qui a tellement abandonné, à part qu'il s'est réveillé trop tard, à part que cet enfant était déjà adopté, et qu'il a saisi la justice pour casser la filiation adoptive de ce couple, et la justice lui a donné raison. Ben, pour moi, c'est de la maltraitance. Pour moi, ce n'est pas le bio qui fait le père. Donc, c'est pour ça que, voilà, là, on n'a que très peu de temps, puis vous ne me connaissez pas depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup écrit ça. Dans la bibliothèque, je vous donnerai plein de trucs, d'articles. Lisez les livres de Berger. Pour nous, le lien biologique, ça n'a jamais été suffisant pour qualifier quelqu'un de père. Sans ça, je ne pourrais pas mettre l'article 380 pour dire « je retire cet enfant et je veux qu'il ait un avenir ailleurs », si je pensais que le père, c'était le bio. Une dernière question.
Une dernière question, madame. Là.
Oui. Je vous ai beaucoup entendu parler dans les couples de même sexe, parler de père et de mère, mais je voudrais avoir votre avis sur la fonction paternelle et la fonction maternelle. Pourquoi, pourquoi est-ce que deux parents de même sexe ne pourraient pas... je ne comprends pas votre propos, en fait.
C'est-à-dire, ils ont une fonction qui est la même, mais il n'y a pas l'autre, tout simplement. C'est-à-dire que les interactions... Enfin, il y a toute la bibliothèque sur les interactions de l'homme avec le bébé, de la femme avec le bébé. Elles sont différentes, différenciées, complémentaires, pas au même rythme, pas à la même place. Voilà, c'est-à-dire, à la fois, il y a des choses extrêmement cliniques qui sont évidentes par rapport aux interactions avec un bébé. Vous donnez un bébé à un homme, au bout de 2 minutes, il est en l'air, il le jette, il le rattrape dans la moitié des cas, etc. La mère, elle a des interactions pédagogiques. Elle a... Donc tout ça, ça a été filmé, vous avez tout un truc là-dessus qui fait qu'au niveau interactif, ce n'est pas la même chose. Et deuxièmement, au niveau fantasmatique, l'enfant n'est pas du tout confronté à la même scène originaire avec deux personnes de même sexe qu'avec une personne de sexe différent. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est comme la loi 2002 avec le père et la mère. C'est pas la même chose, c'est complémentaire. Et vous le voyez vite, c'est-à-dire c'est pas compliqué. Si vous mettez un enfant en résidence alternée avant 3 ans et avant 6 ans, avec autant de temps chez l'homme et la femme, ben vous allez vite voir comment l'enfant va être mal. Et comment on explique que l'enfant aille mal ? Ben ça veut dire que les interactions qu'il a avec la mère sont d'une qualité extrêmement différente de celle qu'il a avec le père. Sans ça, ça marcherait, leur histoire de temps égal, parent égal. Donc, en fait, on a toute une clinique qui nous montre à quel point ces intérêts... Et là, une fois de plus, c'est pas un jugement. Ça ne veut pas dire que l'homme, c'est moins bien que la mère. Ça veut dire que c'est différent. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut différent et différencier les choses, mais sans chercher à juger. Hein, et le problème, il est là. Donc effectivement, on a plein de littérature qui différencie les choses d'un point de vue clinique. Et puis, au niveau symbolique et fantasmatique, c'est pas la même chose par rapport à se créer une origine à partir de deux personnes de même sexe.
Il y a un travail symbolique à faire, oui. Alors, c'était la dernière question, donc celle-là, c'est la dernière. D'accord. Madame.
Alors, je n'ai pas lu l'éloge du secret, et j'aurais savoir si des parents, un couple hétérosexuel, bien dans la norme, etc., qui infertile, qui a d'enfants avec un double don de gamètes, et qui a beaucoup d'amour à donner, prend-il des risques en n'avouant pas ce double don de gamètes à l'enfant ?
Alors d'abord, pour moi, je parle rarement ni de couple hétérosexuel ni de couple homosexuel. C'est-à-dire, pour moi, ce qui compte, c'est infertilité, pas infertilité, position par rapport à ça. Depuis les années 70, on ne cesse de dire qu'il faut dire aux enfants ce qu'il en est de d'où ils viennent. Donc il est évident qu'ils doivent penser ça d'abord. Ensuite, ils décideront. Est-ce qu'ils le disent, est-ce qu'ils ne le disent pas? Mais il faut d'abord qu'ils élaborent l'enjeu, pourquoi ils ne vont pas le dire. Et ensuite, pourquoi ils vont le dire. C'est-à-dire que tout ça, c'est extrêmement important à penser. S'ils ne le pensent pas, il y aura des effets plus tard. Hein? Donc ça, c'est vraiment important, parce que ce qui compte pour nous, c'est justement la capacité à pouvoir penser ce que ça représente pour eux, ce double don. Voilà.
Bon,
ben, je vous remercie.
Il nous manque au moins une heure pour continuer. Merci à vous tous. Donc, vous pouvez voir tous les écrits. Il suffit de taper le nom de Lévi-Soussan et vous trouverez tous ces livres. Nous vous attendons pour un pot, mais je sais